Merci à tous d'être revenus. Donc, après notre matinée largement à dominante éthologique, on va passer à un après-midi plutôt éthique, philosophique. Et je vais, pour commencer, donner la parole à Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer est un homme aux multiples facettes, comme beaucoup des orateurs d'aujourd'hui, puisqu'il s'est intéressé à Saad. C'est un spécialiste du Turkménistan, où il a d'ailleurs séjourné en tant que diplomate. Et puis, surtout, s'il est ici, c'est qu'il s'est intéressé au problème du respect de l'animal et qu'il a écrit un livre que je vous conseille de regarder tout à l'heure, qui s'appelle Éthique animale, qui est le seul manuel français en langue française dans ce domaine qui couvre toute la question. Il y a d'autres livres très intéressants qui sont affichés là-bas aussi, bien sûr, mais le seul manuel, en quelque sorte, qui couvre l'ensemble de la discipline, c'est ce livre Éthique animale de Jean-Gène Villemer.
Merci, bonjour à tous. Je voudrais remercier d'abord Georges Chapoutier et Yann Bonnefoy pour cette belle organisation de cette journée d'études. Donc la conférence s'intitule « Les principaux courants en éthique animale ». C'est une conférence essentiellement pédagogique et qui se fera en deux temps. Dans un premier temps, je vais essayer déjà de définir, de parler de qu'est-ce que l'éthique animale. Et dans un second temps, vous parler à proprement parler des différents courants. Donc la première question qu'on va poser, c'est qu'est-ce que l'éthique animale ? Il faut en fournir une définition. On peut dire que l'éthique animale est l'étude du statut moral des animaux, ou pour le dire autrement, l'étude de la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux pris individuellement. On verra pourquoi tout à l'heure le pris individuellement est important. Il s'agit donc de poser les questions classiques des devoirs de l'homme envers les animaux, ou selon la perspective qu'on a, des éventuels droits des animaux, et d'une manière générale, des jugements moraux, c'est-à-dire ce qui se pose en termes de bien et de mal, à porter sur notre traitement actuel des animaux. Ensuite, je parle de l'émergence d'un domaine de recherche. Mon exposé d'aujourd'hui concerne l'éthique animale contemporaine, qui est une discipline majoritairement anglo-saxonne, mais il est important de rappeler que la réflexion actuelle n'est pas apparue ex nihilo, qu'elle est le résultat d'une lente maturation, qu'elle s'enracine dans une histoire, et l'on trouvera dans l'ouvrage désormais classique d'Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, qui est au fond de la salle, l'une des sommes les plus complètes qui soit sur l'évolution du statut de l'animal, pas seulement le statut moral, c'est plus large, dans la philosophie au cours des siècles. En ce qui concerne la naissance du débat contemporain dans les années 70, cette naissance est due à plusieurs facteurs. D'abord, dès la fin du 19e siècle, la pratique de la protection animale s'intensifie avec des associations et des mouvements. La théorie n'est pas extrêmement développée à cette époque, mais c'est essentiellement la pratique de la protection. Ensuite, dans les années 60 en Angleterre, la contestation de l'élevage industriel se développe. On peut voir par exemple le livre « Animal Machines, The New Factory Farming Industry » de Ruth Harrison en 1964. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit peut-être un peu petit, mais... Donc c'est dans cette foulée que se crée ce qu'un psychologue d'Oxford qui s'appelle Richard Rider appelle le groupe d'Oxford. Le groupe d'Oxford, c'est un groupe d'étudiants et de chercheurs de l'université d'Oxford qui, au début des années 70, pose les fondements de l'éthique animale contemporaine. Il y a trois étudiants, Harris et Legodlovich, un couple... qui publie un recueil intitulé « Animals, Men and Morals » en 1972. Ce livre, « Animals, Men and Morals », attire l'attention de trois autres étudiants, Andrew Lindsay, qui est toujours à Oxford et qui est le seul détenteur de dans le monde d'une chaire de théologie et protection animale, Stephen Clark et Peter Singer, qui est un Australien qui fait son doctorat à Oxford à l'époque. C'est en faisant un compte-rendu de cet ouvrage, « Animals, Men and Morals », que Singer a pour la première fois utilisé l'expression « Animal Liberation », qui est le titre d'un article qu'il a publié en 1973, donc deux ans avant le livre « La libération animale »,« Animal Liberation », qui a été publié en 1975 et qui est traduit en français chez Grasset en 1993. S'ensuit immédiatement une avalanche de publications, toutes issues du groupe d'Oxford ou des personnes en contact avec le groupe. Donc je ne cite pas, mais vous avez là, donc en quelques années, des exemples qui apparaissent à l'écran. C'est ce qu'on appelle la première génération d'auteurs en éthique animale, qui pose les bases du débat contemporain. Il y aura une deuxième génération dans les années 80 et 90, fin des années 80 et après les années 90. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que l'éthique animale est une discipline à part entière ? Bon, on peut certainement discuter le terme de discipline, on aurait raison de le faire, on pourrait préférer le terme de domaine de recherche, par exemple, mais le fait est qu'aujourd'hui, et dans le monde anglo-saxon exclusivement, l'éthique animale est considérée comme une véritable discipline universitaire, qui donne lieu à des milliers de publications, à des colloques, des conférences, des thèses et de nombreux enseignements, à la fois en philosophie, en droit, en sciences animales et en médecine vétérinaire. Les premiers cours à l'université se sont développés à la fin des années 70 et au début des années 80, aux États-Unis et en Angleterre. C'est un développement qui reste très régionalisé, c'est-à-dire qu'il est clairement anglo-saxon. On parle beaucoup plus de animal ethics, hein, éthique animale, c'est une traduction littérale de animal ethics, que d'éthique animale, même si cela commence à changer en France depuis quelques années. Pour avoir une identité propre, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette première partie, qu'est-ce que l'éthique animale, il faut en premier lieu se différencier du reste. Donc le premier défi de l'éthique animale, en tant que discipline ou domaine, c'est de se distinguer des autres disciplines ou des autres domaines qui lui sont proches, mais qui ne sont pas elles. C'est donc la question que j'aborde maintenant. La première distinction importante à faire, c'est que l'éthique animale n'est pas la science du bien-être animal, animal welfare. Et on confond souvent, dans les laboratoires et les écoles vétérinaires, les notions d'éthique et de bien-être animal. La manière dont les médias utilisent les expressions « règles d'éthique animale », si vous tapez « éthique animale » dans Google, par exemple, vous allez trouver ça, « règles d'éthique animale » ou « comité d'éthique animale », est également trompeuse. La science du bien-être animal est une discipline technique qui ne se demande pas si l'homme doit chercher à améliorer le bien-être des animaux et pourquoi, mais seulement comment. Et c'est une vraie science, il y a de nombreux ouvrages qui se développent sur cette question. Comment améliorer le bien-être des animaux de laboratoire, par exemple? C'est du bien-être animal. L'éthique animale, de son côté, n'est qu'un questionnement qui est beaucoup plus large, qui n'est pas un ensemble de règles, ce n'est pas une conduite, un guide, et ça déborde largement la question des animaux de recherche, ça déborde largement la question de l'expérimentation animale. Donc l'éthique animale permet une remise en cause profonde de la relation entre homme et animal, contrairement à la science du bien-être animal, dont l'unique but est de garantir l'absence ou la minimisation de la souffrance de l'animal exploité, sans remettre en cause l'exploitation elle-même. Deuxième distinction à faire, l'éthique animale, ce n'est pas le droit de l'animal et ce n'est pas les droits de l'animal. Le droit de l'animal au singulier, c'est l'étude du statut juridique de l'animal dans le droit positif. C'est une discipline distincte qui donne lieu à des cours dans près de la moitié des facultés de droit américaines, par exemple. Les droits de l'animal au pluriel, alors en français il y a une ambiguïté parce qu'on a le même, on dit droit et droit, alors qu'en anglais on a rights et law, donc c'est beaucoup plus évident. Les droits de l'animal au pluriel, entendus comme droits éventuellement légaux mais aussi et surtout moraux, relèvent au contraire de l'éthique, c'est une question morale. L'éthique animale est un ensemble encore plus large que ça, puisqu'elle intègre la question des droits de l'animal, mais pas seulement cette question des droits, puisqu'il est possible de réfléchir sur le statut moral de l'animal sans revendiquer une théorie des droits. On peut se situer dans le champ de l'éthique animale sans revendiquer des droits, c'est ce que fait Peter Singer, par exemple. L'éthique animale n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler la philosophie animale. Alors ça, c'est une confusion qui est assez fréquente dans la tradition continentale, en particulier en France. Ce qu'on pourrait appeler, mais il n'y a pas d'expression déjà faite, donc on peut contester cette expression, philosophie animale ou philosophie de l'animalité, est une tradition qui examine la manière dont la philosophie considère l'animal, c'est-à-dire est-ce qu'il pense, est-ce qu'il raisonne, quelle est l'essence de l'animal, quel est son être au monde, qu'est-ce qu'il distingue de l'être humain, etc. Dans une perspective qui est souvent historique, des Grecs à nos jours, et qui privilégie certains courants comme l'existentialisme, la phénoménologie ou l'herméneutique. Autrement dit, la philosophie animale relève davantage de l'ontologie ou philosophie première, c'est des questions qui sont assez proches des questions métaphysiques, que de l'éthique appliquée sur des cas concrets, même si elle implique forcément des conséquences éthiques, et si le lien entre les deux domaines gagnerait à être développé. Quatrième et dernière distinction, l'éthique animale, animal ethics, ce n'est pas l'éthique environnementale, ça c'est une distinction et qui implique un lien complexe qui sera bien développé par Raphaël et Catherine Larrère tout à l'heure. Donc je me contente de signaler quatre différences pour qu'on puisse juste identifier ces deux champs. Première différence, l'éthique animale s'intéresse aussi à des classes d'animaux, par exemple les animaux de compagnie, les animaux de divertissement, les animaux d'élevage, les animaux de travail, qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle la nature, entre guillemets, notion problématique, et qui ne font donc pas partie des préoccupations directes de l'éthique environnementale. Deuxième différence, l'éthique animale ne s'intéresse qu'aux êtres vivants sensibles, car elle fait de la souffrance son point de départ. Les plantes, les entités supra-individuelles, comme les forêts, les espèces, les écosystèmes, ne sont considérées qu'en tant qu'ils ont un lien avec l'animal, tandis qu'en éthique environnementale, ils peuvent faire l'objet d'une considération morale directe. Troisième différence, l'éthique animale considère généralement la mort et la souffrance comme des maux, qu'elle cherche à éviter ou au moins à minimiser. Ce n'est pas le cas de l'approche environnementale, qui est très critique à cet égard, considérant que la mort et la souffrance font partie intégrante de la vie et de la nature. Et quatrième différence, la perspective de l'éthique animale est généralement individuelle, puisque ce sont toujours des individus qui souffrent, ce n'est pas des espèces, tandis que celle de l'éthique environnementale est généralement holiste et s'attache à la protection des espèces et des écosystèmes. Donc voilà pour ce qui est de l'identification de l'éthique animale par rapport aux disciplines ou aux domaines de recherche qui sont proches. Mais si l'éthique animale se distingue, si elle n'est aucune de ces approches, néanmoins elle a des liens avec chacune d'entre elles. Et ça, on peut le voir dans l'exemple de l'élevage industriel qu'a bien montré Jocelyne Porcher dans l'exposé précédent. Puisque en plus de nuire au bien-être animal, d'un point de vue strictement éthique animale, en considérant l'animal comme individu, on peut voir l'élevage industriel, donc ce que Jocelyne a appelé la production animale ce matin. Cet élevage pollue énormément, participe au réchauffement climatique, la déforestation, etc. Mais également, ce qui n'est pas suffisamment rappelé, à la misère humaine. Et ça, on l'a bien vu donc, dans l'exposé précédent. Donc l'éthique animale qui étend le statut moral aux animaux, elle est dans une logique extensionniste. Et au cours de l'histoire, le statut moral, d'une manière générale, s'est étendu des hommes à l'origine blancs, mâles et libres, aux esclaves, et puis aux femmes, et puis à tous les autres, d'une manière générale, à tous ces individus qui sont habituellement déclassés, dévalués. Et aujourd'hui, il s'étend en dehors de l'homme, aux animaux, voire à tous les êtres vivants, voire au reste. Donc un défi important de l'éthique animale, c'est de savoir jusqu'où il faut aller, autrement dit, jusqu'où le cercle de la considération morale doit-il s'étendre. Et c'est posé donc la question, de quels animaux parle-t-on ? Première hypothèse, qui est un consensus, l'éthique dont il est question n'est généralement pas celle des éponges, des huîtres et des vers de terre. Les exemples utilisés s'approchent rarement des couches élémentaires de l'évolution et en restent généralement aux animaux supérieurs, c'est-à-dire à ceux dont il ne fait aucun doute qu'ils sont sensibles. C'est au XVIIIe siècle que l'on formule clairement cette thèse, qui est un renversement de perspective, une sorte de révolution copernicienne, selon laquelle c'est la sensibilité et non la rationalité ou les capacités cognitives des animaux qui font que l'on a envers eux certains devoirs. Et contrairement à un préjugé fort répandu, ce n'est pas Bentham qui est le premier à énoncer clairement cette thèse, c'est Rousseau. Donc voici une citation. L'homme est assujetti envers eux, les animaux, à quelque espèce de devoir. Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraitée inutilement par l'autre. Donc révolution copernicienne, ce qui donne droit à la considération morale, ce n'est pas des capacités cognitives ou intellectuelles, c'est la capacité de souffrir. Et à ce moment-là, nous la partageons avec les animaux. Donc ils doivent faire partie de cette considération morale. Donc aujourd'hui, le critère de la sensibilité ou de la souffrance est l'un des points de départ les plus consensuels de l'éthique animale contemporaine, mais c'est un critère qui pose de nombreux problèmes. Il n'est pas toujours évident, par exemple, de savoir ce qu'est un animal sensible, quand on regarde dans le détail. Le critère de la sensibilité n'est pas simple à utiliser, mais plus fondamentalement, on peut se poser la question, est-il seulement nécessaire ? Le critère de la sensibilité est-il nécessaire ? Oui, répondent Singer et la plupart des acteurs de l'éthique animale contemporaine. Mais on trouve chez Martha Nussbaum une réponse plus nuancée, qui consisterait à dire en gros, non en théorie, mais oui en pratique. Théoriquement, Nussbaum, qui est une philosophe américaine à l'Université de Chicago, défend une approche disjonctive selon laquelle si une créature a soit la capacité de ressentir le plaisir et la douleur, ou la capacité de se mouvoir d'un endroit à l'autre, ou la capacité d'éprouver des émotions et de l'attachement, ou la capacité de raisonner, et ainsi de suite, alors cette créature a un statut moral. Ce serait donc disjonctif, ce ne serait pas que la capacité de souffrir, il y en aurait d'autres. Mais dans les faits, il se trouve que toutes les créatures qui ont les qualités susdites ont aussi la capacité de ressentir le plaisir et la douleur. Car la sensibilité joue un rôle essentiel dans le mouvement, l'attachement, l'émotion et la pensée. Autrement dit, si la sensibilité apparaît comme une condition nécessaire de la considération morale, ce n'est pas parce qu'elle est le seul critère pertinent, mais plutôt, il y a un problème dans mon PowerPoint, c'est pas grave, mais plutôt parce qu'elle est la condition de tous les autres critères, la condition de toutes les autres conditions de la considération morale. Donc de ce point de vue, elle reste nécessaire. Deuxième question qu'on peut se poser, le critère de la sensibilité est-il suffisant ? À partir de maintenant, je vais employer les termes de déontologisme et d'utilitarisme, et donc il vaut mieux peut-être pour ceux qui en ignorent le sens dans la salle, les expliquer d'abord. Le déontologisme, qui vient du grec déon qui veut dire devoir, c'est une approche d'origine kantienne, donc Emmanuel Kant, selon laquelle une action est moralement bonne si elle est accomplie par devoir ou par respect pour la loi. Les actes ont une valeur intrinsèque, ils sont bons ou mauvais en eux-mêmes, indépendamment des sujets et des conséquences. L'exemple type d'un commandement déontologique, c'est « tu ne tueras pas », par exemple, une règle à respecter absolument. L'utilitarisme est une sorte de conséquentialisme et c'est une approche d'origine anglaise qui évalue moralement l'action en fonction de ses conséquences. Autrement dit, une action est moralement bonne si elle produit les meilleures conséquences possibles. et on peut prendre pour bien mesurer la différence entre les deux l'exemple de la promesse. D'un point de vue déontologique, l'impératif « il faut tenir ses promesses » est quelque chose à respecter absolument et dans toutes les conditions. Et on doit toujours le faire. Et vous êtes déontologique si vous le faites indépendamment des conséquences. Et par contre, vous êtes conséquentialiste si, parfois, vous considérez qu'il vaut mieux rompre sa promesse si vous estimez que, dans ce cas particulier, la rompre produit de meilleures conséquences. Donc pour les utilitaristes ou conséquentialistes, hein, c'est à peu près pareil, je ne reviendrai pas sur la distinction, comme Singer, Peter Singer, la réponse est généralement oui. La réponse à cette question, le critère de la sensibilité, est-il suffisant ? Il suffit d'être capable de souffrir pour avoir droit à de la considération morale. C'est pourquoi, explique Singer, pour défendre les conclusions qui sont argumentées dans ce livre étant Animal Liberation, le principe de réduction maximale de la souffrance suffit. Mais pour d'autres, en particulier des déontologistes, le critère de la sensibilité n'est en général pas suffisant et il faut lui ajouter ou le remplacer par d'autres conditions. Un exemple, les sujets d'une vie de Reagan, Tom Reagan, un autre philosophe américain. Pour Reagan, les individus sont sujets d'une vie s'ils ont des croyances et des désirs, s'ils sont doués de perception, de mémoire et d'un sens du futur incluant leur propre futur, s'ils ont une vie émotionnelle faite de plaisirs et de peines, des préférences et des intérêts au bien-être, la capacité d'entreprendre une action pour atteindre leurs désirs et leurs buts, une identité psychophysique à travers le temps, c'est-à-dire que vous êtes un être biographique et pas seulement un être biologique, et un bien-être personnel dans le sens où l'on peut dire que leurs expériences le réussissent ou pas, de manière logiquement indépendante de leur utilité. Logiquement indépendante de leur utilité, ici Reagan s'oppose frontalement à Singer, qui est un utilitariste évidemment, et du fait qu'elle puisse satisfaire l'intérêt de quelqu'un d'autre. Donc la définition de Reagan est assez restrictive et elle ne concerne à vrai dire que les mammifères âgés d'un an et plus, et l'auteur laisse ouverte la question de savoir ce qu'il en est des animaux moins évolués. Il y a aussi ceux qui donnent la priorité à certaines espèces. Alors on peut le faire pour des raisons scientifiques, c'est le cas des chimpanzés. Stephen Wise, par exemple, qui est un professeur de droit, puisqu'en éthique animale, comme c'est assez interdisciplinaire, on a aussi des juristes, considère que ne sont dignes de statut moral que les animaux titulaires de ce qu'il appelle une autonomie pratique, c'est-à-dire capables de partager certaines tâches cognitives avec les humains, par exemple réussir le test du miroir, qui ferait la preuve d'une conscience de soi, comme on l'a vu ce matin dans l'exposé de Georges Chapoutier. Dans les faits, ce critère assez strict ne laisse passer que les humains, certains grands singes, les dauphins et les éléphants. Dans l'immédiat, il donne la priorité aux chimpanzés. À ce titre, il est le fondateur d'une organisation qui réunit des juristes, des scientifiques et des experts dans le but de faire du chimpanzé un sujet de droit devant les tribunaux américains, et en particulier d'abolir leur utilisation pour le cinéma et la télévision. Deuxième exemple de priorité donnée aux chimpanzés, Paola Cavalieri est avec Singer à l'origine du projet Grand Singe, dont le but est d'étendre aux grands singes trois droits jusqu'ici réservés aux humains, le droit à la vie, la protection de la liberté individuelle et l'interdiction de la torture. On peut aussi donner la priorité à certaines espèces pour des raisons stratégiques, je passe là-dessus. Juste signaler que les militants dans le domaine du militantisme des droits de l'animal et de la condition animale en général donnent généralement la priorité aux animaux de consommation, c'est-à-dire ceux qu'on mange, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur capacité cognitive ou leur capacité individuelle, contrairement aux chimpanzés, mais tout simplement pour leur nombre, en se basant sur le fait qu'on tue chaque année au moins 53 milliards d'animaux dans le monde pour se nourrir. Et cela suffit, selon certains, à en faire une priorité absolue, une priorité stratégique en termes de militantisme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tenir compte de la diversité du monde animal. Ceux qui s'opposent à ce qu'ils appellent les animalistes, c'est-à-dire les défenseurs de la cause animale en général, ont tendance, pour les dénigrer, à dire qu'ils mettent tous les animaux dans le même sac et que défendre les droits de l'homme, par exemple, les droits des animaux, pardon, c'est vouloir donner des droits aux chimpanzés comme aux vers de terre. C'est une critique qu'on trouve très souvent. L'amalgame est un outil classique du dénigrement qui vient ici de l'extérieur du domaine de l'éthique animale et qu'on retrouve par exemple dans le premier chapitre de la philosophie de la corrida de Francis Wolff. Il y a un peu de vérité dans cette accusation, dans la mesure où l'on pourrait reprocher aux auteurs de l'éthique animale de prendre toujours les mêmes exemples faciles et consensuels. On parle toujours dans les livres d'éthique animale du chien, du chat, du cheval, du cochon. Hein ? On évite les cas les plus difficiles, les cas limites. On évite de parler des poissons, des invertébrés, des insectes. Mais globalement, le reproche est infondé, car la plupart des auteurs font l'effort de dire quels sont les animaux qui, pour eux, sont concernés par l'éthique animale. Et de toute façon, comme le dit bien Reagan, le but n'est pas de dresser la liste exhaustive des animaux en question, ni de montrer que tous les animaux ont des droits ou des intérêts, selon qu'on défend une théorie des droits ou autre chose. Le but est de montrer qu'il est faux de considérer que seuls les hommes en ont. Et pour ça, quelques exemples suffisent. Et pour le public, mieux vaut que ces exemples soient les plus évidents, et c'est pour ça qu'on utilise des animaux emblématiques comme le chimpanzé. J'en viens maintenant à la deuxième partie de l'exposé, sur les principaux courants à proprement parler. Il faut d'abord les introduire par quelques notions utiles, sur lesquelles ces courants se basent, et qu'ils ont souvent en commun. La première notion importante, c'est l'antispécisme. C'est une notion qui est apparue dans les années 70, sous la plume de Richard Rider à Oxford, et qui est à la base d'une grande partie de l'éthique animale. Comme son nom l'indique, l'antispécisme s'oppose au spécisme. De la même manière que le racisme est une discrimination selon la race et le sexisme une discrimination selon le sexe, le spécisme est une discrimination selon l'espèce. C'est donc l'attitude qui consiste à juger la valeur d'un individu, à lui attribuer ou à lui refuser une certaine considération, non pas en fonction de ses caractéristiques individuelles, mais seulement en fonction de son appartenance à une espèce. Être antispéciste, c'est donc ne pas faire de l'appartenance à une espèce un critère discriminant de considération morale. Les différences physiques entre les espèces ne sont pas moralement pertinentes. C'est ce que disait déjà Bentham au XVIIIe siècle. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Aujourd'hui, quasiment tous les acteurs de l'éthique animale sont antispécistes. C'est l'une des bases les plus consensuelles du domaine dans la tradition anglo-saxonne. Deuxième distinction importante, bien-être et droits des animaux. Là, il est capital de faire cette distinction parce qu'on ne cesse en France de faire la confusion. Lorsque les auteurs français critiquent l'éthique animale anglo-saxonne, qui ne connaissent en général pas beaucoup, ils la réduisent sans arrêt à la défense des droits des animaux. Lisez Ferry, Chanteur, Renaud et Wolf, par exemple, c'est systématique. Ferry écrit, par exemple, « Une deuxième tradition de pensée, qui n'a pourtant rien de totalitaire, a prétendu fonder l'idée d'un droit des animaux. Il s'agit bien sûr de la philosophie utilitariste. » Il y a là deux amalgames. Ferry parle du droit des animaux au lieu des droits des animaux. C'est pas la même chose, je rappelle ce que je dis tout à l'heure. Et Ferry écrit que la philosophie utilitariste, et là il vise, et il le fait explicitement dans son article Peter Singer, défend les droits des animaux. C'est une confusion très grave, puisque Singer fait exactement le contraire, et Singer écrit même des articles pour expliquer qu'il ne défend pas une théorie des droits des animaux, contrairement à Tom Regan. Et il y a là deux traditions très fortes. L'éthique animale contemporaine réunit une grande diversité de courants, comme nous le verrons dans un instant, mais elle est parcourue par cette grande distinction assez simple entre deux écoles de pensée, ceux qui souhaitent maximiser le bien-être animal et ceux qui défendent les droits des animaux. Donc, premier courant, maximiser le bien-être animal, c'est un courant qui est dominé par l'utilitarisme. Par bien-être animal, on entend généralement l'absence de faim et de soif, c'est une définition qui est souvent négative, d'inconfort, de douleur, de blessure ou de maladie, de peur et de stress, ainsi que la liberté d'exprimer des comportements naturels. Les welfaristes, de l'anglais welfare, qui signifie bien-être, ont donc pour but de maximiser le bien-être animal, c'est-à-dire réduire la souffrance lorsque c'est possible, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas utile. Il est donc envisageable pour un welfariste d'accepter la souffrance animale si on estime qu'elle produit un plus grand bien, par exemple dans la recherche médicale. Et je rappelle ici que Peter Singer, qui souvent est considéré comme un extrémiste en France, est un welfariste. Il n'est pas un abolitionniste, il ne défend pas une théorie des droits. Et donc, quand on lit bien Singer, on se rend compte que c'est quelqu'un qui permet l'expérimentation animale dans certains cas, contrairement aux caricatures qu'on en fait. Deuxième courant, là, il s'agit de défendre les droits des animaux. Et là, vous êtes dans une perspective déontologique. L'expression « droit des animaux », malheureusement, est ambiguë, et je fais partie de ceux qui s'en méfient. Personnellement, j'appartiens plutôt au premier courant, puisque l'expression « droit des animaux » implique d'emblée un faisceau de questions. D'abord, de quel droit parle-t-on ? De droits moraux ou de droits légaux ? S'agit-il des droits de l'homme étendus à certains animaux, ou s'agit-il de nouveaux droits qui seraient propres aux animaux ? Ce qui n'est pas très clair dans le projet Grand Singe. Et de quels animaux parle-t-on ? Selon quels critères, etc. Donc si on considère que l'animal a le droit non seulement de ne pas souffrir, mais encore de ne pas être exploité par l'homme, alors la défense des droits des animaux implique l'abolitionnisme. Et l'abolitionnisme, c'est quoi ? C'est l'abolition de toute exploitation animale. Dans les faits, par conséquent, les défenseurs d'une théorie des droits sont souvent, mais pas systématiquement, abolitionnistes. Je dis pas systématiquement parce qu'on peut trouver, comme c'est le cas en France, chez quelqu'un comme mon voisin et chez ses collègues de la LFDA, la Ligue française des droits de l'animal, un vocabulaire des droits qui est pourtant associé à une pensée relativement modérée et welfariste et qui n'a rien d'un abolitionnisme. Mais c'est une sorte d'exception française qui ne correspond pas aux classifications des grands courants classiques de l'éthique animale qui est anglo-saxonne. Donc, on peut être welfariste et souhaiter l'abolition de telle ou telle pratique. La corrida, par exemple, ça ne fait pas de vous un abolitionniste pour autant. Pour être abolitionniste, il faut souhaiter l'abolition de toute exploitation animale. Et donc n'être pas seulement végétarien ou même végétalien, mais être vegan, c'est-à-dire ne consommer aucun produit animal, ni pour se nourrir, ni pour se vêtir, ni pour se soigner, etc. Parce que l'abolitionniste ne cherche pas à évaluer telle ou telle pratique, contrairement à ce que va faire le welfariste, l'utilitariste, il va évaluer, il va voir les conséquences, il va dire oui ou non. L'abolitionniste qui réfléchit sur une théorie des droits refuse en général toutes les pratiques, puisque ce qui le gêne est le principe même de l'exploitation animale. Ce n'est pas le fait que l'animal soit mal considéré ou mal traité dans tel ou tel type d'exploitation. C'est le principe même qu'on l'exploite. C'est ça qui le gêne. Comme le dit Reagan, le mouvement des droits des animaux est un mouvement abolitionniste. Notre but n'est pas d'élargir les cages, mais de faire qu'elles soient vides. C'est Reagan qui dit ça, c'est pas Peter Singer, et la différence est de taille. Donc, si cette distinction est claire, on peut être trompé par l'expression « libération animale », qui est une expression trompeuse. Puisqu'elle ressemble à une annonce abolitionniste, libérer les animaux, a priori, c'est ouvrir les cages. C'est donc cesser de les exploiter. Et pourtant, cette expression n'est pas de Reagan, qui est abolitionniste, mais elle est de Singer, qui n'est pas abolitionniste. Donc, il ne faut pas la prendre au sens strict. Singer a le sens du slogan ou du bon titre, mais ce n'est pas parce qu'il annonce la libération des animaux qu'il est abolitionniste et qu'il veut ouvrir les cages et qu'il s'agit de lâcher dans la nature des milliers d'animaux demain. Ce n'est pas du tout ça le programme. J'en viens en position classique. Première position, l'utilitarisme de Peter Singer. Le premier chapitre de Animal Liberation s'intitule « Tous les animaux sont égaux » ou « Pourquoi le principe éthique sur lequel repose l'égalité humaine exige que nous étendions l'égalité de considération des intérêts également aux animaux ». L'idée clé de Singer est donc l'idée d'égalité de considération des intérêts. En l'occurrence, de quel intérêt parle-t-on ? De l'intérêt que partagent la plupart des hommes et la plupart des animaux, c'est quoi ? C'est l'intérêt de ne pas souffrir. C'est-à-dire qu'il faut considérer avec autant de considération la souffrance animale et la souffrance humaine. Le fait que l'homme soit globalement plus intelligent, plus rationnel et plus complexe que la souris, par exemple, ne change strictement rien au fait que l'un et l'autre souffrent. Comme le dit Sidgwick. Un autre utilitariste classique, je cite, « La différence de rationalité entre deux espèces d'êtres sensibles ne permet pas d'établir une distinction éthique fondamentale entre leurs douleurs respectives. » Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est plus rationnel que l'autre que la douleur purement physique, si on peut parler comme ça, ce qui n'est pas certain, en est modifiée. De là, il est important d'éviter deux confusions. La première confusion est que l'égalité de considération n'est pas l'égalité de traitement. Lorsque Singer dit qu'il faut considérer également les intérêts de tous les animaux, ça ne signifie pas qu'il faille les traiter également. Tous les animaux n'ont pas les mêmes intérêts. Donc considérer également des intérêts différents implique de les traiter différemment et en s'adaptant à chaque être. Voilà une citation. « La préoccupation pour le bien-être des enfants qui grandissent aux États-Unis peut exiger que nous leur apprenions à lire. La préoccupation pour le bien-être des cochons peut ne rien impliquer d'autre que les laisser en compagnie d'autres cochons dans un endroit où il y a une nourriture suffisante et de l'espace pour courir librement. » Deuxième confusion à ne pas éviter, l'égalité de considération n'est pas l'égalité des vies. Il ne s'agit pas de dire que toutes les vies sont d'égale valeur, car il ne faut pas confondre faire souffrir et tuer. En matière de souffrance, les autres caractéristiques que la souffrance, et qui sont notamment chez l'homme sa supériorité intellectuelle, et tous les critères habituels, les critères traditionnels, ne sont pas pertinents, c'est-à-dire qu'ils ne changent rien à la souffrance elle-même. Ce n'est pas parce que l'homme a toutes les capacités qu'a rappelé Georges ce matin, en expliquant qu'elle se trouvait d'ailleurs déjà à un stade embryonnaire ou proto quelque chose chez l'animal, ce n'est pas parce que l'homme a ces capacités-là que ça change quelque chose à la souffrance. Par contre, pour ce qui est de la vie, ces critères peuvent devenir pertinents. Donc, ce que dit Singer, c'est que la vie d'un être possédant conscience de soi, capable de penser abstraitement, d'élaborer des projets d'avenir, de communiquer de façon complexe et ainsi de suite, a plus de valeur que celle d'un être qui n'a pas ses capacités. Et là-dessus, il s'oppose assez fondamentalement et il est critiqué par les personnes les plus radicales de l'éthique animale, qui sont de la branche abolitionniste et basée sur des théories des droits, et qui disent que non, qu'on ne peut pas introduire cette distinction. Voilà, donc là, il y a des tensions internes importantes. Deuxième courant important, et c'est les deux courants les plus importants, grosso modo, à l'heure actuelle dans l'éthique animale anglo-saxonne, c'est l'abolitionnisme et la théorie des droits, qui sont donc liés, l'abolitionnisme étant la conséquence pratique la plus courante des théories des droits. Pour Reagan, attribuer des droits moraux à un être implique de reconnaître qu'il a une valeur inhérente, cette notion de valeur inhérente étant très kantienne, selon le critère du fait d'être sujet d'une vie, ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Alors que pour Singer, avoir une considération morale pour un être implique seulement de reconnaître qu'il a des intérêts selon le critère de la sensibilité. Donc c'est deux choses différentes. Une autre personne qui est proche de ce courant-là, c'est Gary Francione, qui est un juriste. Et pour lui, le principal obstacle à la libération animale est juridique et réside dans le fait que les animaux sont toujours considérés comme des biens et qu'ils ont le statut légal de propriété. Dès lors, le premier droit qu'il faudrait leur reconnaître, explique Francione, est celui de ne pas être traité comme des biens dont l'homme peut se rendre propriétaire, c'est-à-dire comme les moyens des fins d'autrui, et ce, en valeur de leur valeur inhérente. Vous allez trouver chez Francione les positions qui, à mon avis, sont parmi les plus radicales en éthique animale et les plus clairement énoncées, parce qu'il a lui aussi le sens du slogan et de la polémique. Il tient d'ailleurs un blog sur lequel il ne manque pas d'incendier Peter Singer, par exemple. Un autre courant ou un autre ensemble de courants, c'est ce que j'appelle l'intuitionnisme, dans lequel on peut mettre un sac dans lequel on peut mettre pas mal d'auteurs, c'est-à-dire l'ensemble des approches qui accordent une place essentielle à l'intuition, au bon sens et à la moralité courante, contre les positions classiques qui reposent surtout sur la rationalité, parce que ce qu'on vient de voir là, c'est des raisonnements qui nous conduisent à adopter ces positions éthiques. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de ces raisonnements, c'est juste l'intuition suffit. Par exemple, Clark, un philosophe britannique, écrit que ceux qui battent les chiens à mort font quelque chose que la société devrait condamner, sans attendre de savoir si le chien a des droits abstraits et métaphysiques. Autrement dit, toutes ces questions philosophiques, voire juridiques, complexes, on n'a pas besoin de les régler pour savoir que c'est mal. Il s'appuie sur une intuition morale et accessible à tous, qui est qu'il est mal de causer un mal évitable. Bon, c'est généreux, mais en pratique, c'est pas facile à utiliser, surtout parce que parfois on note que causer un petit mal peut permettre à moyen ou à long terme d'obtenir un plus grand bien, auquel cas ce précepte devient assez difficile à manipuler. Deuxième tradition, c'est ce qu'on appelle l'éthique du care. Les deux premiers courants que j'ai distingués, l'utilitarisme de Singer et la théorie des droits de Reagan et Francione, s'opposent, mais ils ont en commun un même goût pour l'argumentation rationnelle. Ils font tous les deux partie de ce qu'on pourrait appeler une éthique de la justice. L'éthique de la justice cherche à établir rationnellement ce qui est juste. Or, un certain nombre d'auteurs ne partagent pas cette approche qu'ils jugent trop froide et trop comparative, puisqu'elle compare la situation de l'animal avec celle de l'homme. C'est toujours avec cette comparaison qu'on procède. Et une partie donc de la critique préfère une approche basée sur un sentiment direct, ce sentiment étant la sollicitude. Ces gens partent du principe que l'homme éprouve naturellement de la sympathie pour les animaux et ils développent leur argumentation en suivant cette ligne. C'est ce qu'on pourrait appeler avec Boltanski un style émotif, qui est largement utilisé par des associations. On trouve également au moins quatre autres approches qu'on pourrait dire alternatives parce qu'elles abordent l'éthique animale d'un point de vue extérieur et que faute de temps, donc je me contenterai de citer seulement. On a des approches religieuses comme la théologie animale d'Andrew Lindsay dont je parlais tout à l'heure à Oxford. On a des approches scientifiques, hein, qui sont le fait de biologistes, de vétérinaires, comme Rod et Rollin aux États-Unis, qui évaluent nos devoirs envers les animaux en fonction de leur fonctionnement biologique, avec des choses très simples, en disant par exemple, parce que la poule a des ailes, elle devrait être capable de voler ou de les utiliser. Et c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas pouvoir la mettre dans un enclos où elle n'a pas la capacité d'étendre ses ailes, en se basant juste sur le fonctionnement biologique de l'animal. On a des approches environnementales avec Callicott qui s'opposent en général à l'éthique animale au sens strict, comme on l'a dit tout à l'heure et comme ce sera développé dans l'exposé suivant. On a des approches écoféministes qui établissent un parallèle entre l'exploitation de l'animal par l'humain et l'exploitation de la femme par l'homme. Et un autre courant que je développerai davantage, donc c'est la question du pragmatisme. Le pragmatisme américain tente depuis quelques années de se constituer en un courant en éthique animale, et il y a un livre pour ça qui est apparu en 2004, qui s'appelle « Animal Pragmatism » aux États-Unis. Le pragmatisme vise l'action dans la société plutôt que les débats universitaires. Il souhaite aussi dépasser le débat déontologisme-utilitarisme, et ça c'est un point commun qu'il a avec les approches intuitionnistes, écoféministes, etc. que je viens de citer. Personnellement, je suis assez sceptique sur la constitution du pragmatisme en un véritable courant, parce que j'ai tendance à considérer qu'il s'agit davantage d'une attitude. On trouve du pragmatisme chez certains auteurs, on en trouve y compris chez Peter Singer. Donc il y a des auteurs qui sont plus ou moins pragmatiques. Est-ce qu'il existe un courant en éthique animale qu'on peut appeler pragmatisme? J'en suis pas sûr. Une autre approche intéressante, c'est celle de Martha Nussbaum. C'est l'approche par les capacités, ce qu'on peut appeler l'approche par les capacités, que Nussbaum a développée dans les années 80 sur d'autres sujets avec l'économiste Amartya Sen. sur des questions d'inégalité, de pauvreté, etc. L'approche par les capacités appliquées aux animaux consiste à dire, enfin, c'est une théorie des devoirs directs qui traite les animaux comme des sujets et des agents et pas seulement comme les objets de compassion, selon laquelle les animaux ont droit au fonctionnement d'une grande variété de leurs capacités, celles qui sont le plus essentielles à une vie épanouie, une vie digne de la dignité de chaque créature. Autrement dit, ça ressemble pas mal à certaines approches scientifiques comme celle de Rod ou Rowling, c'est-à-dire parce que l'animal a telle capacité, il a droit de l'exploiter, de l'utiliser, de la faire fonctionner. Et on a du coup le devoir corrélatif de lui permettre de faire fonctionner cette capacité. Alors maintenant, la question est de savoir de quelle capacité on parle. Et Nussbaum en donne 10, que sont la vie, la santé corporelle, l'intégrité corporelle, les sens, l'imagination et la pensée, la raison pratique, la capacité d'avoir des relations avec d'autres espèces et le jeu. Ça, on en parlait aussi ce matin. Parce que l'animal a la capacité de jouer, il a le droit à ce qu'on le mette dans un environnement où il devrait pouvoir exercer cette capacité. Et ça, c'est valable pour tous les environnements, que ce soit des environnements d'élevage, de zoo, de cirque, etc., de ménagerie. Il y a d'autres approches qui sont des approches politiques. La politique, c'est un autre angle. Il y a pour ça un bon livre, The Political Theory of Animal Rights, de Robert Garner, un Britannique, en 2005. Alors, juste pour donner un exemple, la perspective socialiste, en théorie politique, vise à montrer, à faire un parallèle, comme le faisaient les écoféministes, entre l'exploitation de l'animal par l'homme et l'exploitation de la femme par l'homme. Le parallèle, cette fois, est entre exploitation animale et exploitation humaine, montrer que les deux sont étroitement imbriqués. Un sociologue américain fait ça, il travaille sur la mondialisation de l'industrie agroalimentaire. Et il en parle, je cite, du terrible confinement et abattage du milliard d'autres animaux au traitement abusif des ouvriers de l'industrie agroalimentaire, du meurtre de ceux qui, au tiers-monde, résistent à l'expropriation de leurs terres pour servir de nouveaux pâturages à une production toujours croissante de bœufs nourris à l'herbe, de l'expansion de la famine mondiale aux maladies de l'abondance, en grande partie causées par une alimentation excessivement carnée. Donc il montre qu'il y a une complémentarité dans l'exploitation animale et l'exploitation humaine, et que contrairement à ce qu'on dit souvent, en tout cas dans le domaine de l'élevage, améliorer le sort des animaux reviendrait aussi à améliorer le sort des hommes qui travaillent avec ces animaux, et je pense que Jocelyne Porcher serait d'accord avec cette idée. Voilà, personnellement, pour terminer, je parlerai un petit peu d'une autre approche qui s'appelle l'approche par le discours, que j'essaye de développer un peu plus. Il est possible et même souhaitable, à mon avis, d'aborder l'éthique animale d'un point de vue argumentatif et sociologique, du point de vue de la théorie de l'argumentation, en analysant les discours et les stratégies qu'on trouve dans le milieu de l'exploitation animale. J'y consacre un chapitre dans mon livre sous le titre de « Stratégie d'exclusion ». Alors, il faut expliquer ce que c'est. Les stratégies d'exclusion sont les stratagèmes, les alibis et l'ensemble des actions mises en œuvre pour justifier l'exploitation animale et ses abus, tout en modérant la culpabilité des acteurs et des spectateurs. L'une des rares personnes en France à avoir défriché cette approche, il y a quelques années, est Georges Chapoutier, qui l'avait déjà fait. Donc il a distingué notamment des discours alibis, les discours classiques. On retrouve, pour les citer, l'alibi historique, hein, c'est-à-dire l'homme préhistorique, mangeur de chair et chasseur, donc on devrait encore aujourd'hui être mangeur de chair et chasseur. L'alibi diététique, nous aurions un besoin vital de viande. Je me rappelle une question qui a été posée à la fin de la session précédente et qui était, mais que fait-on de notre besoin de viande ? Je pose la question, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un désir de viande ? La question mérite d'être posée. En quoi s'agit-il d'un besoin réellement vital ? Je ne suis pas là pour faire l'apologie du végétarisme, mais au moins qu'on soulève la question. L'alibi écologique, c'est-à-dire il faut bien chasser puisque les espèces sont en surdensité, il faut bien réguler les populations. C'est vrai, mais si les espèces sont en surdensité et si les populations ont besoin d'être régulées, c'est aussi parce que l'homme a causé des déséquilibres. Il y a aussi de l'alibi sportif, hein, pour la chasse, tout ça. Hein. C'est-à-dire toutes les notions de jeu, de lutte, d'effort, etc., et qui est lié à l'alibi naturaliste, c'est-à-dire mais la chasse, c'est le rapport avec la nature, c'est la promenade dans la nature, etc. C'est vrai, mais et ça, Chapoutier le dit bien, enfin, il y a aussi Luke qui le dit aux États-Unis, tout ça justifie les à côté de la chasse. Ça ne justifie pas la chasse. Vous pouvez avoir les mêmes stimulations, les mêmes plaisirs, en faisant d'ailleurs ce qu'on appelle de la chasse photographique, ou en faisant de l'observation, ou tout simplement vous baladant dans la nature. Et il y a évidemment le très grand alibi classique de la tradition, qui consiste à défendre certaines pratiques parce qu'elles sont traditionnelles. C'est le cas du foie gras, qui depuis 2005 est patrimoine culturel et gastronomique protégé en France, ou du célèbre alinéa 3 de l'article 521 du Code pénal français pour la corrida. Il y a aussi l'alibi économique. Au Canada, on l'entend beaucoup, la chasse aux phoques, c'est quand même tout de même des profits de 20 millions de dollars. En France, c'est les producteurs de foie gras, c'est quand même 30 000 emplois, etc. Donc l'alibi économique est très souvent utilisé dans les médias. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'alibi économique n'a pas empêché de lutter contre le tabagisme, hein, malgré les conséquences économiques qui étaient beaucoup plus importantes pour toutes les personnes qui tenaient des bureaux de tabac. Et ça n'a pas empêché de penser au ferroutage, malgré l'opposition des camionneurs, etc. Donc parfois, on est capable, sur certains sujets, de sacrifier des intérêts économiques quand on considère qu'il y a des intérêts supérieurs qui l'exigent. Enfin, il y a l'alibi éducatif concernant les cirques et les zoos, c'est-à-dire on va montrer les animaux aux enfants pour qu'ils apprennent ce que c'est qu'un animal. Il est assez facile de montrer qu'en réalité, ce n'est pas l'animal, ou en tout cas l'animal sauvage qu'on montre à l'enfant, et ce n'est pas de la pédagogie, mais de la démagogie. Et ce qu'on montre, c'est un animal modifié, perverti et appauvri par sa captivité, sauf dans certains cas de grands zoos occidentaux qui sont très bien faits, avec un territoire immense où il y a la stimulation, tout ce qu'il faut, etc. Mais pour quelques zoos comme ça, combien y en a-t-il dans le monde, y compris en Asie, en Chine, où moi j'en ai vu au Turkménistan, où là, c'est des zoos, ce sont des ménageries, hein, c'est-à-dire qu'il y a des cages minuscules et ils restent là-dedans tout le temps, hein, et ce n'est pas des enclos. Pour terminer, je parlerai des stratagèmes qui sont mis en œuvre. Le premier stratagème, c'est la négation des torts causés, qui commence avec la dissimulation de la réalité. Hein, il est très difficile de savoir comment les animaux sont traités derrière les portes des baraques Montfermier et des laboratoires. Jocelyne disait tout à l'heure, ce serait bien de rendre ça plus transparent, c'est-à-dire ouvrons les portes des abattoirs, quelque part, montrons, si on veut assumer. Des efforts sont entrepris pour qu'on ne voit pas l'exploitation animale, tout simplement parce que si l'on voyait l'exploitation animale, on consommerait moins. Deuxième étape de ce premier stratagème, c'est le déguisement de la réalité. Hein, je crois que c'est toi, Georges, qui parle de déguisement de la réalité. C'est-à-dire l'euphémisation. Hein, les chasseurs ne tuent pas, les chasseurs récoltent. Ils cueillent, ou ils prélèvent, ou ils s'emparent, ou ils procèdent à une réduction de la population. Hein, les chercheurs, ils ne tuent pas non plus, ils achèvent, ils terminent, ils sacrifient. Et ce n'est pas des animaux, de toute façon, c'est du matériel biologique. Hein, ou des systèmes d'essai, c'est ça les animaux de laboratoire. Aux États-Unis, les abattoirs, on les appelle les unités de transformation d'aliments, des food processing units, hein, ou alors des moissonneuses à protéines, protein harvesters, ou des usines à viande, meat factory. Autrement dit, on utilise une terminologie abstraite, mécanique ou agricole, parce qu'elle est plus propre pour sanitariser l'acte de tuer. Ce qui prouve bien que cet acte pose problème. Le deuxième stratagème mis en œuvre, c'est le découpage des responsabilités. Hein, c'est la division du travail qui permet au consommateur de viande de dissocier le morceau qu'il achète de l'animal dont il est originaire, puisque ce n'est pas la même personne qui élève, qui abat, qui transporte et qui achète la viande. Donc la responsabilité, elle est diluée dans cette chaîne, elle est diluée dans une société qui fonctionne toute seule, et le consommateur se retrouve déconnecté de la réalité. Plutarque disait, si tu veux manger de la viande, tue l'animal toi-même. Troisième et dernier stratagème, c'est la dévalorisation de la sympathie pour les animaux. Et je terminerai avec ce stratagème-là. On véhicule l'idée que la sympathie pour les animaux a un fondement irrationnel, sentimental et juvénile. On vise à décrédibiliser les personnes, les associations ou les discours qu'on appelle animalistes, c'est-à-dire qui défendent d'une manière ou d'une autre la cause animale. L'exemple le plus courant consiste à utiliser ce qu'on appelle en théorie de l'argumentation le sophisme du pire. Hein ? On s'insurge que l'on puisse penser aux animaux quand tant d'humains souffrent et meurent de faim. Le sophisme du pire, techniquement, consiste à dire que X n'est pas un problème puisqu'il y a pire que X. Et donc on devrait concentrer toute son énergie sur le pire que X. Par exemple, il consiste à décrédibiliser ceux qui luttent contre la corrida en les accusant de n'avoir aucun sens des priorités. C'est ce que fait Wolf. Hein, Wolf dit, les gens qui luttent contre la corrida feraient mieux de s'occuper de la Tchétchénie, de l'Irak, du Darfour, hein, des enfants qui crèvent de faim ou meurent sous les bombes. Bon, cet argument est extrêmement courant et il est totalement fallacieux pour plusieurs raisons. D'abord, comme le dit bien Chapoutier, ceux qui citent volontiers les enfants du tiers-monde comme un prétexte pour ne pas se soucier des animaux ne font en général strictement rien, ni pour les uns, ni pour les autres. Ensuite, il y a une faute logique. Ce n'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'on ne doit rien faire ici. Hein, ce n'est pas parce que des enfants meurent de faim qu'on ne doit rien faire pour la souffrance des poules pondeuses, dans la mesure, et uniquement dans cette mesure-là, je suis d'accord, où l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas contradiction, on peut faire les deux. Prouvez-moi qu'il y a contradiction à un moment, et là, il faudra faire un choix. La question se pose aussi dans le référentiel humain, faut-il ne pas donner à nos mendiants nationaux parce qu'ils seraient moins à plaindre que ceux qui meurent de faim ailleurs dans le monde? Certainement pas, si aider les uns n'empêche pas d'aider les autres. Donc on peut se soucier du bien-être des taureaux, et plus largement on peut se soucier du bien-être des animaux. C'est même quelque chose d'important pour l'homme, et c'est ce que montre cette journée d'études. Merci.
passionnante étude est ouverte à la discussion.
Très clair. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup pour ce panorama très complet. C'est plus une remarque. Je voulais vous signaler, mais vous le savez certainement, qu'il y a un certain nombre, bien sûr, de vos catégories qui se recoupent, forcément. Et à propos de d'un petit passage de vos dernières parties sur l'alibi du chasseur préhistorique, qui est effectivement assez fréquemment utilisé, je voulais vous signaler qu'il y a un article d'une écoféministe qui critique cet alibi et même qui montre que cet alibi souffre la dimension d'une espèce de mythe fondateur qui installerait toute l'histoire de l'Occident dans cette espèce de geste initial de la chasse au mammouth. Et cette auteure américaine, Ursula Le Guin, argumente qu'il est possible de réécrire cette histoire faisant du geste initial, du geste fondateur, au contraire celui de la cueillette, puisqu'il est manifeste que les hommes préhistoriques vivaient pour à peu près 80% de consommation, n'est-ce pas, de protéines végétales et non pas animales. Et donc on peut totalement réécrire ce qui finalement n'est qu'un récit, fondateur, mais qui est également, on pourrait dire, tout à fait androcentrique, en même temps bien sûr qu'anthropocentrique.
Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous dites, et c'est vrai que d'une manière générale l'écoféminisme a tendance à développer des thèses qui sont beaucoup plus générales et larges que l'acception stricte, c'est-à-dire la question du parallèle entre l'exploitation des animaux par l'homme et l'exploitation des femmes par l'homme, et produit parfois des critiques qui sont assez proches de la théorie critique et des critiques beaucoup, beaucoup plus larges, et qui, c'est un domaine de recherche, un courant en éthique animale qui à mon avis a beaucoup d'avenir et en pleine expansion, et il y a effectivement une histoire à réécrire, c'est certain. Tu voulais ajouter
quelque chose? C'est le mythe connu sous le nom du mythe du chasseur et de la nourrice. Tous les hommes sont des chasseurs, toutes les femmes sont des nourrices.
Non, mais je pense que là, il y a deux attitudes vis-à-vis de cette histoire de mythe d'origine. L'homme était chasseur, etc. On peut dire, ben non, il n'était pas chasseur, c'est le geste primordial, était cueilleur. Et il y aura constamment des controverses là-dessus, puisque en période glaciaire, il était certainement chasseur, et en période interglaciaire, il était certainement plutôt cueilleur que chasseur. Donc, il n'y a pas. Simplement, on peut se dire, mais que l'homme ait été, dans des circonstances exceptionnelles, un chasseur, ouais, ne justifie pas la chasse maintenant. Bien c'est sûr. Tout bêtement. Hein, c'est pas la peine de. Même si le récit est bon, ça ne justifie pas la situation. Oui,
c'est un problème de logique. C'est une question de logique.
Qui veut parler ? Monsieur.
Est-ce que vous pourriez revenir au début de votre exposé quand vous posiez le problème de la singularité, en tout cas du côté personnel quant à l'éthique, au côté individuel quant à l'éthique animale? Parce que finalement, quand l'éthique se pose sur une éthique humaine, elle n'est pas seulement individuelle face à un animal, en imaginant que vous puissiez en tant qu'humain le tuer. Vous êtes finalement seul à prendre cette décision sans avoir à en référer à une collectivité. C'était pour préciser ça par rapport au début de votre exposé.
Peut-être que j'ai pas été clair, effectivement, je suis pas revenu là-dessus, mais parce que c'est quelque chose qui était traité juste un petit peu plus bas dans la distinction entre éthique animale et éthique environnementale. Et de toute façon, voilà, on va y revenir après. C'est une réponse très très simple. C'est tout simplement, comme l'éthique animale est basée sur la question de la souffrance animale et que seuls les individus souffrent et pas les espèces, c'est abstrait, une espèce, ça ne souffre pas. Donc du coup, par exemple, une approche d'éthique holiste, globale, environnementale va vouloir sauver les baleines parce qu'il y a une menace qui pèse sur l'espèce et des conséquences possibles sur la biodiversité. Pour quelqu'un qui a une pure approche d'éthique environnementale, la dernière des baleines est à égalité avec une poule. Parce que c'est l'individu qui compte, on va observer sa capacité de souffrir. C'est pour ça que l'éthique animale prend les animaux individuellement, elle ne les prend pas par espèce. Mais il y a des recoupements et c'est très complexe. Et Raphaël et Catherine Larrère pourront vous en parler tout à l'heure.
cette fois c'est une vraie question. Vous avez parlé au début de votre exposé de la difficulté qu'il y avait peut-être à définir ou à mesurer ce que pouvait être la sensibilité animale. En parlant des différences, bien sûr, entre les animaux les plus évolués et les moins évolués. Bon, j'utilise ces termes avec beaucoup de précautions, évidemment, parce qu'ils ne sont pas innocents. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, hein, c'est vraiment une, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que pour pouvoir mesurer la sensibilité animale, il faudrait soumettre les animaux à des protocoles expérimentaux, ou alors ça veut dire qu'on pose cette sensibilité comme un postulat et qu'on ne peut pas le vérifier. Je veux dire, s'il n'y a pas une difficulté à cet endroit-là.
Oui, bien sûr, mais alors c'est là que les conséquentialistes et les déontologistes vont se séparer, qu'ils vont s'opposer. Si vous êtes conséquentialiste, vous êtes prêt à sacrifier quelques individus pour établir si cet animal souffre, pour à l'avenir éventuellement bannir les expérimentations sur cette espèce parce que vous savez qu'il souffre et vous aurez à long terme maximisé le bien-être de davantage d'individus. Si vous êtes déontologiste, vous allez estimer que l'expérience sur quelques individus, même si elle sauve potentiellement des milliers d'autres, ne vaut pas d'être menée parce que ça violerait le principe absolu qui fait qu'on ne doit pas faire souffrir un animal ou prendre le risque de le faire souffrir. Maintenant, deuxième partie de la réponse, c'est une question qui se pose essentiellement pour les poissons, c'est réglé. C'est-à-dire on sait que les poissons sont des animaux sensibles, ils ont un système nerveux complexe, etc. Mais on a un blocage psychologique parce que les poissons vivent dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Ils sont visqueux, ils ne ressemblent vraiment pas beaucoup, on ne peut pas s'identifier. Ils ont le sang froid, ils ne saignent pas beaucoup, etc. Et surtout, ils sont muets, ils ne crient pas. Hein. Un poisson ne crie pas. Et donc, du coup, on a des problèmes pour s'identifier. Mais sinon, le poisson, c'est très clair. Donc, les questions se posent surtout au niveau des invertébrés et des insectes.
Oui, concernant Peter Singer, j'ai vu que récemment, on trouve l'ouvrage qu'il a écrit sur l'éradication de la pauvreté. Ouais. Donc, en fait, il parle de la souffrance animale et puis il en vient à des questions d'éthique humaine. Donc ma question c'est que pourquoi, en première vue, comment se fait-il que d'utilitariste, il devienne, quand il s'agit de l'homme, plus déontologiste? Et mon autre question derrière, c'est au fond, quelles sont les conceptions qu'il peut avoir à partir de sa réflexion sur l'animal, sur les conditions d'une possibilité de l'éthique humaine? C'est-à-dire quelles sont les conséquences que ça a sur sa conception de l'éthique en général, quoi.
Alors déjà, il faut bien comprendre que Peter Singer n'a pas commencé par l'éthique animale. Peter Singer était à Oxford pour faire un doctorat qui n'était pas un doctorat en éthique animale. Il a commencé à travailler en philosophie morale, en éthique de manière générale. Et c'est parce qu'il était à Oxford, dans ce groupe d'Oxford qui réfléchissait sur l'animal, que par hasard, il a publié cet article et puis ce livre sur l'éthique animale, et sur lequel d'ailleurs il est parvenu depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, avant de publier d'autres articles. Et c'est quelqu'un qui a une œuvre abondante dans le domaine de la bioéthique en général, et qui a soutenu des thèses, pour vous donner une idée, qui sont favorables à l'euthanasie, parce que c'est un conséquentialiste. Et donc c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas déontologiste, c'est-à-dire que dans tous les dilemmes moraux qu'on peut avoir, il va refuser de prendre sa décision en fonction de la conformité à une règle. Il va dire, voyons quelles sont les meilleures conséquences. Si les meilleures conséquences sont d'euthanasier, euthanasion. Il n'y a pas de vie sacrée qui nous empêcherait de le faire. Donc voilà sa position générale qu'il applique à différents problèmes, y compris la pauvreté. Et je ne pense pas que dans son dernier livre sur la pauvreté ou dans le livre précédent sur des questions de justice globale, ce qu'on appelle en anglais Global Justice, le livre précédent s'appelant One World, qui était publié chez Yale University Press il y a quelques années, je ne pense pas que même que dans ces livres-là ou dans ce domaine de recherche chez lui, il y ait du déontologisme. Je crois qu'il est toujours, j'aimerais que vous me donniez des exemples si vous en avez, qu'il est déontologiste sur des questions globales. Et même, il n'y aurait pas forcément une contradiction, puisque sur des domaines différents, on peut apporter des réponses différentes.
Oui, si je peux rapidement ajouter quelque chose. D'une part, le tout dernier livre de Peter Singer, qui fait avec un journaliste qui s'appelle The Ethics of What We Eat, l'éthique de ce que nous mangeons, et la liaison entre les deux, entre une éthique de la faim humaine et le problème de manger des animaux, etc. Donc de ce point de vue-là, il y a conciliation de ces deux positions. Alors je serais très légèrement en désaccord avec Jean-Baptiste, sur le fait qu'il y a de la déontologie, à mon avis, chez Singer, qui à Oxford est un élève de Hare, et Hare est quelqu'un qui a essayé de concilier le kantisme et l'utilitarisme. Et moi, mais c'est une interprétation, on pourrait discuter longuement, hein, mais moi je pense que le principe d'égalité que Jean-Baptiste a rappelé au début, que pose Peter Singer au début de Libération animale, est un principe déontologique, c'est-à-dire de ce qui est une règle méthodologique dans l'utilitarisme de Bentham, il fait à mon avis un principe déontologique. Mais ça demanderait une longue discussion. Juste pour dire que, pour vous montrer qu'il peut y avoir des désaccords, qu'on ne parle pas d'une seule fois.
Voilà, donc il y a une autre question. Par contre, je me demande s'il est encore disponible en librairie, le livre de chez Grasset.
Alors,
je crois qu'il est épuisé, je l'avais commandé, je ne l'ai pas eu. Hein.
Ce livre a été épuisé pendant longtemps, oui. Y compris dans les années 2000. Et j'ai su qu'il a été épuisé parce que il y a quelqu'un chez Grasset qui bloquait sa réédition.
D'accord. Hein, non, parce que là, c'est il est toujours épuisé. Hein.
Non. Après, il a plus. En 2008, il a été renouveau disponible. Et puis là, depuis quelques mois, il semblerait qu'il soit. Voilà. Quand on va sur Amazon, qu'on ne puisse plus le commander.
Voilà. Oui, j'ai essayé de l'avoir. Je ne l'ai pas. Mais j'ai un autre livre de Singer, là, mais je n'ai pas celui-là. La dernière question.
Oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les utilitaristes prennent si peu acte de l'histoire. C'est-à-dire que cette alternative entre l'utilitarisme et la déontologie, le déontologisme, semble complètement un cercle vicieux si on ne prend pas acte de ce qui s'est passé avec l'histoire du nazisme en particulier. Et faire une justification de l'euthanasie aujourd'hui, ça me semble totalement délirant, de ce point de vue-là. On pourrait, en termes utilitaristes, se servir de l'argument historique.
Oui, si je peux me permettre, c'est un autre problème, là. Est-ce qu'on parle de l'euthanasie humaine, maintenant ? Je veux bien, mais est-ce qu'on parle de ça ? Ou est-ce que vous pouvez appliquer votre...
Étant donné que le comparatisme est de rigueur dans ce type de pensée, on est forcément obligé de le prendre en compte.
Vous pensez que l'euthanasie humaine ne devrait même pas être considérée dans nos sociétés aujourd'hui ?
Non, ce qui me gêne, c'est cette manière, une fois de plus, de revenir à des comparaisons entre la notion de valeur de vie. Les vies qui ont une valeur, les vies qui ont moins de valeur, ça me semble un principe vicié à la base.
Pourquoi ? C'est vous qui posez la question.
Non, j'ai pas envie de répondre.
Bon. Oui.
Attendez, Elisabeth.
Non, je vais pas.
Madame de Fontenay, si vous voulez répondre, je vous passe le micro.
Je demande à Jean-Baptiste, Jean-Yves Villemer, s'il ne comprend pas la question de Catherine, s'il ne veut pas répondre à la question de Catherine. Cocchio, parce qu'il ne la comprend pas ou parce qu'il fait semblant de ne pas la comprendre ?
Non, c'est pas ça. Moi, je veux bien qu'on parle de l'euthanasie, mais une fois de plus, enfin, ça m'est arrivé.
Vous parlez de vies qui en valent la peine et de vies qui n'en valent pas la peine.
J'expose la pensée de Peter Singer. Je ne suis pas là pour la défendre, d'une part.
Oui, je voulais poser une petite question concernant l'émergence des premiers courants américains. Qui contestait l'élevage industriel, les conditions de l'élevage industriel. Est-ce que c'était directement replacé dans une perspective politique plus générale, à savoir la contestation d'une économie capitaliste par elle-même forcément productiviste, ce qui veut dire que pour faire des profits, il faut réduire les coûts de production. Et ça vaut aussi bien pour l'objet que pour l'animal. L'animal, on le met dans des petits enclos avec une nourriture au rabais, etc. Donc, on minimise les coûts. Est-ce que c'était dans la perspective de ce style de...
Oui, alors c'était déjà en Grande-Bretagne, pas aux États-Unis à l'époque, c'est vraiment dans les années 60 que c'est né. Ensuite, oui, il y avait des liens qui étaient faits, mais on pouvait y arriver des deux manières. C'est-à-dire soit vous aviez une perspective déjà socialiste et qui permettait de critiquer ce mode de production en général et pour les hommes, et puis vous voyez aussi qu'il y avait de mauvaises conséquences pour les animaux et ça donnait de l'eau à votre moulin. Soit vous étiez très préoccupé par la question animale pour des questions de sensibilité personnelle et vous en déduisiez qu'il fallait remettre en cause la manière dont on produisait à l'époque et donc le mode d'économie ou la manière de penser l'économie. Donc on pouvait rencontrer, selon les perspectives à cette époque, les différents... Enfin, on peut faire le lien de manière réciproque en partant d'un bout ou de l'autre. Donc le lien est là, mais il n'y a pas une direction univoque.
Une dernière question, simplement d'un point de vue pratique. Il y a des jeunes, des étudiants dans la salle. Donc l'éthique animale, dans les disciplines en France, est-ce qu'on en fait moins qu'en Angleterre? Je suppose que c'est plutôt un courant anglo-saxon. Donc, bon, si certains étudiants qui font des études environnementales, etc., ou sur philosophie ou en droit, bon, quelle est l'approche qu'ils ont? Est-ce qu'il y a des cours en éthique animale? Voilà, c'est très important.
Comme je peux intervenir, il faut lire le livre Éthique animale de Jeanne Villemer.
Oui, ça, je sais qu'il faut le lire.
Il y a tout dedans.
Il y a tout dedans. Ça, je sais qu'il y a tout dedans. Par contre, par rapport à l'enseignement d'éthique animale, oui, il y a tout dedans, bien
mais,
sûr.
C'est vrai que c'est un problème. Non, mais c'est un problème en France. À ma connaissance, depuis quelques années, ça commence à changer. Mais à ma connaissance, j'en parlais hier justement avec Catherine, il n'y a eu que deux séminaires à l'université qui parlaient explicitement de ces questions-là, parce que c'est des questions qui peuvent occuper une ou deux séances dans un cours ailleurs. Hein, c'était le séminaire de Catherine Herrera à Paris 1 et puis le séminaire de Florence Burga à l'EHESS. Donc c'est extrêmement réduit, c'est pas du tout dans la majorité des universités et c'est pas du tout dans la diversité des disciplines. C'est-à-dire quand ça n'apparaît qu'en philosophie. Il faudra attendre 5, 10 ans, 15 ans pour que le droit commence à s'en préoccuper, même s'il y a des thèses qui sont faites, mais on parle d'enseignement là. On parle d'accès à l'enseignement.
Exactement.
Dans les écoles d'agronomie. Mais est-ce qu'il s'agit d'éthique animale, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à exposer?
Ouais, d'accord.
Et est-ce que c'est pas plutôt de la science de bien-être animal un peu soft? Non. D'accord, parce que ça existe aussi.
Non, mais c'est important de savoir ça parce que je pense que c'est. Voilà, d'accord. Monsieur,
allez-y. En licence de philosophie ici à Poitiers, il y a l'éthique animale, il y a même une. Mais il y a des étudiants qui viennent d'autres universités, notamment.
Vous avez un cours qui s'appelle spécial. Éthique animale ou quelque chose comme ça pendant un an?
Enfin, t'as un semestre, quoi.
C'est vrai?
Oui.
Voilà, première nouvelle.
Elle sera là tout à l'heure.
Elle sera bien.
Là, Corinne Péluchon. Oui.
C'est aussi la volonté d'un enseignant, c'est clair.
Oui.
Là, c'est Corinne Péluchon à Poitiers, on la remercie. Donc, madame, vous vouliez intervenir une dernière fois, puis après, on arrête. Non, c'est bon, c'était ça? D'accord. Oui, non, mais c'est important aussi, c'est vrai que c'est des disciplines qui émergent comme ça, on sache que tout n'est pas gagné ici en France. Il y a du travail à faire. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
On échappe ça.
Monsieur et madame Larère.
Donc, au début du XXe siècle, il y a un couple qui a isolé le radium, c'était Pierre et Marie Curie, qui est un couple célèbre et qui montre l'utilité d'un couple qui travaille dans un même domaine. Mutatis mutandis. Raphaël et Catherine Larère, lui agronome, elle philosophe, sont les apôtres de la philosophie environnementale. Vous ne pouvez pas vous mettre là plutôt?
Ah oui, on va se mettre à côté.
Et donc je leur cède très volontiers la parole.
Vous voulez vous mettre là?
Mettez plutôt de l'autre côté. Asseyez-vous de l'autre côté.
Ok. C'est ton côté. Oui, ça va être sans PowerPoint. Il va falloir vous réhabituer aux formes traditionnelles. Il n'y aura pas de photos de vaches, ni de...
D'abord, on ne sait pas faire des PowerPoint. Ils sont très vilains.
Donc, je vais commencer. Donc, on va parler tous les deux, mais je commence et je vais introduire et on se partagera la parole. Donc je vais commencer par remercier les organisateurs, aussi bien locaux que Georges à Paris, d'avoir organisé cette journée qui me paraît tout à fait passionnante, et j'espère qu'on ne va pas faire tomber le niveau. Je vais en plus remercier Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer qui a intervenu avant nous en faisant un très très vaste... et très, très complet, une très vaste et très complète présentation de l'éthique animale et des rapports avec d'autres éthiques, ce qui va me permettre de faire un zoom, pensez à Astérix, là où on voit piouf, le petit village gaulois. Eh bien, le petit village gaulois, ça sera les rapports entre éthique animale et éthique environnementale, rapport auquel Jean-Baptiste a fait référence, et puis en disant bon, ça sera développé, oui, je vais essayer, Raphaël et moi allons essayer de développer cela. Donc je repartirai un peu en amont de ce qu'a dit Jean-Baptiste, en disant qu'au départ, entre, je dirais, la protection de la nature et la défense ou la protection des animaux, il y a apparemment convergence. Hein. Je dirais que protéger des espaces dans les parcs naturels, par exemple, c'est protéger des populations animales qui s'y trouvent, et plus particulièrement certains animaux emblématiques, hein, bouquetin, grand tétras, aigle de Bonelli, etc., et qui servent d'emblèmes aux parcs nationaux. Donc la nature, la protection de la nature s'avance sous l'emblème des animaux, et ne serait-ce que parce que ces animaux, dans ce qu'ils ont d'emblématique, sont plus mobilisateurs que des espaces naturels plus abstraits. Donc il semble aller de soi que l'éthique animale, et là aussi je remercie Jean-Baptiste d'avoir fait l'effort de définir de ce dont il s'agit, donc je pourrais aller vite, que l'éthique animale et l'éthique environnementale, si je désigne par là les deux types de réflexions philosophiques qui tentent de trouver les arguments, en particulier sur les questions de valeur, qui permettent de justifier ces actions de protection, que donc éthique animale et éthique environnementale soient également convergentes. Donc, deux éléments de convergence, si vous voulez. L'un, toujours, qui a été rappelé par Jean-Baptiste, c'est une convergence temporelle. Il se trouve que 1973 est l'année où paraissent trois articles fondamentaux. L'article, donc le compte-rendu de Animal Liberation de Peter Singer, auquel Jean-Baptiste a fait référence. La même année est publié l'article qui lance la réflexion sur l'éthique environnementale, qui est intitulé, je traduis, hein, « Avons-nous besoin d'une nouvelle éthique, d'une éthique environnementale ?» Cet article est écrit par un Australien qui s'appelle Richard Routley, qui va très vite se faire rebaptiser en Richard Sylvan, hein, pour bien montrer son attachement à la forêt, et qui lance la question donc, sur l'éthique environnementale. Et c'est aussi 1973, l'année où paraît l'article d'Arne Næss, hein, le philosophe norvégien qui est mort il y a deux ans, qui lance la distinction depuis fameuse entre shallow and deep ecology, entre écologie superficielle et écologie profonde. Donc il y a une convergence de temps, et puis on peut dire qu'il y a une convergence de projets. Hein. Et là aussi, bon, ce que Jean-Baptiste a présenté comme le projet de l'éthique animale, à savoir remettre en cause une conception morale, jusque-là morale dominante, pour qui la morale, c'est une question par et pour les humains, hein, des hommes entre eux, va poser la question du statut moral, ou si on se colle plus au terme anglais de la considérabilité ou de la considération morale donnée aux animaux, et bien de la même façon, les éthiques environnementales posent que nous avons peut-être à l'égard de la nature des devoirs, qu'il y a peut-être entre la nature et nous des rapports moraux et pas simplement des rapports techniques. Donc, convergence apparente. Et donc aussi que l'interrogation est la même, hein, qui est donc de se demander, bon, qu'est-ce qui permet d'accorder un statut moral aux animaux, individuellement, en tant qu'espèce, à la nature, comme un tout dans ses composantes. Hein, et bon, Jean-Baptiste, ça fait référence à la conception de la valeur inhérente de Tom Regan, mais on trouve de la même façon dans la réflexion de l'éthique environnementale, une réflexion sur la valeur intrinsèque. Hein, l'idée, bon, qui est très facilement accessible sur les questions de nature, que la nature, ce n'est pas simplement un ensemble de ressources, de moyens à notre disposition, mais peut-être que la nature a une valeur en elle-même, hein, et pas seulement pour ce à quoi elle peut nous être utile. Alors, donc, je dirais, point de départ apparemment consensuel, hein, je me tourne vers Georges, qui est consensus par excellence, apparemment environnementaliste et spécialiste d'éthique animale marche main dans la main. Et c'est donc, vous voyez, la fin des années 70, hein, tout début des années 80, les deux disciplines, bon, sont en train de se développer, et paraît un article, cet article donc auquel Jean-Baptiste a fait allusion, en 1981, quelqu'un qui s'appelle John Baird Callicott. Alors, John Baird Callicott est un de ceux qui ont introduit, qui ont développé l'éthique environnementale aux États-Unis. C'est un des trois ou quatre qui ont été parmi les premiers à faire de l'éthique environnementale. Et dans la revue que s'est donnée ce courant d'éthique environnementale, Environmental Ethics, John Baird Callicott publie un article dont le titre est, je cite, enfin je traduis, « Libération animale, une affaire triangulaire ». Et par l'image du triangle, Callicott introduit l'idée qu'il n'y a pas, comme je l'ai laissé entendre jusque-là, deux camps. D'un côté, les éthiques traditionnelles, que aussi bien d'ailleurs les tenants de l'éthique animale que de l'éthique environnementale vont appeler les anthropocentriques ou anthropocentristes, parce que c'est les gens pour qui le centre, le lieu de la moralité, c'est les hommes. Hein, l'idée que la morale est coextensive à l'humanité, mais qu'il n'y a que l'humanité. Donc il n'y a pas deux camps avec d'un côté les anthropocentristes et de l'autre ceux qui étendent la considération morale au-delà des limites de l'humanité. Mais l'idée que Callicott introduit, c'est qu'en fait, il y en a trois. Hein, c'est un triangle. Et que il y a une différence importante entre... non seulement il y a une différence importante entre l'éthique animale et l'éthique environnementale, mais, et ça sera l'accusation de Callicott, il y a en fait plus de proximité entre l'éthique animale et les éthiques traditionnelles anthropocentriques qu'il n'y a de rapport entre l'éthique animale et l'éthique environnementale. Donc si j'aurais dû avoir un PowerPoint, bon. Le triangle, il n'est pas équilatéral, hein, il est...
Je peux faire un petit dessin.
Le segment qui rejoint l'éthique humaniste anthropocentrique et l'éthique animale est beaucoup plus court que ce qui sépare ces deux éthiques de l'éthique environnementale. Alors, cet article a fait grand bruit. Callicott l'a regretté. Hein, il dit souvent qu'il a parfois refusé qu'on le republie. Bon, il accepte. Il dit souvent qu'il regrette de l'avoir écrit. Mais bon, la chose est faite, et je dirais, on trouve encore maintenant des articles qui y font référence. Et c'est donc de cet article que je voudrais partir pour présenter, donc dans un premier temps, c'est ce que je ferai, les principaux arguments de Callicott. Je vais essayer de présenter son argumentation. Et ce qui, dans un deuxième temps, m'amènera à laisser la parole à Raphaël pour montrer comment, d'une lecture critique de l'article de Callicott, nous avons essayé de développer notre propre position sur le rapport entre éthique environnementale et éthique animale. Donc je prends ma partie. Puis, il faudrait un petit peu diviser le temps pour que je ne lui mange pas tout son temps.
Hein ? Oui, oui.
D'accord, merci. Bon, alors... pour présenter l'article de Callicott, je vais essayer d'abord, pour que ce soit pour que ce soit pas trop abstrait, je suis obligée de le concentrer, alors ça risque d'être un peu abstrait, je vais essayer de présenter sur des cas les divergences que ça introduit entre les deux éthiques. Hein, comment Callicott... Et bon, ce que je vais montrer, si je prends l'article de Callicott, c'est qu'un certain nombre des arguments qu'il a donnés, ou disons un certain nombre des cas qu'il a présentés, sont repris par d'autres spécialistes d'éthique environnementale, donc ce n'est pas une position propre à Callicott. Hein. Alors je vais essayer dans un premier temps de montrer trois points sur lesquels il y a toujours, à mon avis, divergence entre éthique animale et éthique environnementale. Dans un deuxième temps, j'ai été bien élevé, donc je fais en trois parties. Hein. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer quelle est l'argumentation propre à Callicott. Et dans un troisième temps, bon, je ferai une réflexion critique qui servira de transition avec la présentation de Raphaël. Donc, voyons un peu, disons, les points sur lesquels les deux éthiques s'opposent. Alors, je dirais le premier point, c'est que l'application de chaque éthique, donc éthique environnementale d'un côté, éthique animale de l'autre conduit à des prescriptions différentes, sinon opposées. Alors, il y a un cas qui est une sorte de cas d'école hein, dans les articles d'éthique environnementale, qui est l'histoire du bison qui est en train de se noyer dans la rivière à moitié gelée, quelque part dans le Yellowstone, ouais, un parc de ce genre. Les éthiques environnementales sont des éthiques de la nature, du développement des processus naturels, disent qu'il ne faut pas intervenir. Hein, le bison, il va mourir, les charognards vont le manger, ça va faire des cycles de vie, et comme il a été dit déjà ce matin, hein, la vie se nourrit de la mort, la mort se nourrit de la vie, donc il ne faut pas intervenir. Des éthiques animales, accordant, comme il a été dit tout à l'heure, de l'importance à la souffrance, vont considérer qu'il ne faut pas laisser souffrir le bison en train de se noyer dans la rivière gelée, et donc vont intervenir. Bon, c'est un cas, un petit peu cas d'école, mais pour montrer que ça peut conduire à des prescriptions opposées. Deuxième cas, et ça reste, il y a été fait référence, et on peut y revenir. Il y a un point qui divise, qui oppose les gens qui font de l'éthique environnementale, majoritairement, hein, il y a toujours des exceptions, mais majoritairement les gens en éthique environnementale et les gens en éthique animale, c'est la question du végétarisme. Hein, et il y a même des ruptures, et en particulier entre écoféministes côté animal et écoféministes côté plus environnemental. Hein. Là, je dirais que... Là où une grande partie des éthiques animales, et en particulier, bon, il y a été fait allusion des éthiques du care, hein, du souci, du soin, disent que la seule façon de se soucier des animaux, bah, c'est de ne pas les tuer pour les manger. Il y a été fait l'argument un peu macho sur un homme, un vrai, ça sait tuer du gibier et ça le mange. C'est un argument qu'on trouve chez les spécialistes d'éthique environnementale. Moi, je peux dire que la première fois que j'ai entendu parler d'éthique environnementale, c'était au Brésil en 1992, et j'ai entendu Holmes Thurston III, qui est un des spécialistes, c'est un des autres pères fondateurs avec Callicott, je l'ai entendu terminer sa présentation en disant « Et voilà pourquoi je ne suis pas végétarien, voilà pourquoi je mange de la viande. Hein, » Donc il y avait vraiment la volonté, bon, il se présentait devant des Brésiliens, la volonté de montrer que les éthiques environnementales, elles ne sont pas végétariennes. Donc là, il y a une opposition et qu'on retrouve. Bon, le troisième type de divergence... Alors, c'était très net dans l'article de Callicott, mais ça se retrouve dans d'autres articles d'éthique environnementale, c'est de tourner en ridicule les objectifs de libération des défenseurs des animaux. Hein. Et alors, je vous renvoie à tout ce qu'a dit Jean-Baptiste dans l'intervention d'avant, pour montrer à quel point c'est syncrétique. Hein. Et on a pu reprocher à l'article de Callicott de faire une sorte de syncrétisme de toutes les éthiques animales qui les rendaient un peu ridicules, mais on trouve ces articles, ces arguments chez Callicott. Et on pourrait dire que de ce point de vue-là, il y a une certaine convergence hein, entre les arguments que peut développer Callicott et des arguments, bon, il a été... que développent des gens qui sont hostiles, hein, des anti-animalitaires. De ce point de vue-là, il y a des convergences troublantes. Bon, donc je ne vais pas développer, je dirais, cet aspect, parce que ça me demanderait finalement de revenir, et ce n'est pas la peine, sur ce qu'a dit Jean-Baptiste, pour montrer que bon, c'est une vision un petit peu réductrice des éthiques animales. Je vais essayer de passer maintenant à l'argumentation, hein, c'est le deuxième point que j'avais annoncé, et de voir quels sont... Alors ça, si vous voulez, ce que j'ai dit, c'est les cas qu'on retrouve hein, dans des arguments d'éthique environnementale et sous des formes très différentes. J'en viens maintenant à l'argumentation propre de Callicott et dans son article, et je voudrais montrer que il y a, en fait, dans l'article de Callicott, deux argumentations très différentes. Il fait deux reproches très différents aux éthiques animales. Le premier reproche, Jean-Baptiste y a fait référence, c'est une opposition très bien développée par Callicott entre ce qu'on peut appeler les éthiques individualistes, hein, et ça, ça a été montré par Jean-Baptiste, que les éthiques animales, parce qu'elles se soucient de la souffrance animale, se soucient de chaque individu. Hein, sont des, donc des éthiques qui prennent en compte les individus. Et ça, c'est vrai que ce soit des éthiques des intérêts comme Singer ou des éthiques des droits comme Tom Regan. Et c'est aussi pour ça, peut-on dire, qu'elles sont, ça a été dit aussi, des éthiques extensives, c'est-à-dire qui prennent des schémas moraux qui existent déjà, soit dans l'utilitarisme, on a parlé de Bentham, soit dans le kantisme, parce que, bon, il était bien dit que la position de Tom Regan, c'est finalement une extension de la notion de sujet. Hein. C'est une extension de la notion kantienne. Donc, on a, dans ces éthiques animales, majoritairement, des éthiques individualistes qui étendent des schémas moraux préexistants en dépassant les frontières morales habituelles, hein, en passant de... On sort de l'humanité pour inclure les êtres sensibles. Alors, c'est à ça que Callicott s'oppose en disant, attention, l'extension, les éthiques environnementales ne sont pas des éthiques extensives. Hein, et aux éthiques individualistes animales, il va opposer, bon, d'un terme qui est fréquent en écologie scientifique, il va opposer ce qu'il appelle les éthiques holistes, c'est-à-dire les éthiques qui prennent en considération non pas les individus, mais des ensembles. Alors, ça peut être des populations et pas des individus. Ça peut être des espèces et pas des individus. Hein. Les protecteurs de la nature ne se soucient pas uniquement d'individus, ils se soucient de populations et d'espèces. Mais surtout, au niveau où se place Callicott, c'est ce qu'il reprend à un forestier américain du milieu du XXe siècle qui s'appelle Aldo Leopold, et qui a publié un livre qui est une sorte de référence en éthique environnementale qui s'appelle Almanach d'un comté des sables, où c'est un livre qui est, dans la tradition américaine, un récit de nature, mais qui se termine par des conclusions qui élaborent finalement la première éthique environnementale un petit peu systématique. Et la formule de Léopold que reprend Callicott, qui permet de juger de la qualité d'une action, c'est, je cite, « Une chose est juste en français, une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. » Par communauté biotique, Léopold entend ce que on appellerait aujourd'hui un écosystème, hein, c'est-à-dire un ensemble d'éléments interdépendants. Et dans le vocabulaire, on emploie un peu écosystème comme ça. Bon, Léopold est contemporain, hein, de l'apparition du mot d'écosystème. Donc, l'idée que retient Callicott et qu'il va faire jouer contre l'éthique environnementale, c'est contre l'éthique animale, pardon, c'est là ce qui compte, c'est le bien de la communauté et pas le bien des individus. Et Là, avec une certaine brutalité dans son article, ce qui va provoquer quantité de réactions, Callicott va dire, eh bien, les individus n'ont pas de valeur, d'une part, ils n'ont pas de valeur en eux-mêmes, ils ne valent qu'autant que vaut la communauté, donc ça peut justifier le sacrifice d'individus pour la communauté, et d'autre part, ils n'ont pas une valeur égale, donc il remet en cause et l'individualisme et l'égalitarisme des éthiques animales en disant, je cite, je traduis, « Certaines bactéries peuvent avoir plus d'importance pour la communauté, la santé de la communauté biotique, intégrité, stabilité, beauté, peuvent avoir plus d'importance pour la santé de la communauté biotique que les mammifères et donc mériter plus de respect. » Nette opposition entre éthique individualiste et éthique holiste. Et c'est à partir de là, de cette critique qu'il fait des éthiques animales auxquelles il reproche finalement de n'être qu'une extension de modèles empruntés aux éthiques anthropocentriques, que Callicott va faire valoir dans ce cadre-là son argument, qui est de dire, mais en fait ces éthiques animales, je dirais, elles ne sont plus anthropocentriques, mais elles sont toujours anthropomorphiques. C'est-à-dire, elles projettent sur les animaux des soucis parfaitement humains. Et Callicott va tourner en ridicule cette sensibilité pour la souffrance en disant, bon, ben ça, c'est à peu près la morale du dentiste qui ne veut pas vous faire mal, hein, mais dans la nature, il n'y a pas de dentiste. Hein. La nature, elle ne fait pas attention à la souffrance. Et donc, cet intérêt pour la souffrance, c'est une projection, assez ridicule, hein, de soucis humains qui ne sont pas les soucis de la nature. Alors ça fait intervenir le deuxième argument important de l'article de Callicott, qui est, alors on en a pas mal parlé ce matin, alors qui se situe dans une perspective très dualiste, puisque ça va conduire à opposer ce qui est naturel et ce qui est social, ce qui est sauvage et ce qui est domestique, dans une opposition forte et fortement valorisée. Alors là aussi, Callicott reprend une phrase de Léopold qui est à l'ouverture de l'almanach d'un comté des sables, où Léopold formule une sorte de mot d'ordre, où il dit, il s'agit, je cite la traduction, il s'agit d'apprendre à réévaluer ce qui est artificiel, domestique et confiné à l'aune de ce qui est naturel, sauvage et libre. Vous voyez l'opposition, hein, le sauvage et le domestique, et vous voyez comment l'opposition entre le sauvage et le domestique est encadrée par des termes de valeur. Hein. Il y a d'un côté l'artificiel et le confiné, hein, l'absence de liberté, et de l'autre, le naturel, le sauvage et le libre. Donc on est dans une forte valorisation, dans une référence normative qui va permettre de juger les conduites à tenir. Alors on peut reprendre là l'exemple du bison. Hein. S'il faut laisser le bison mourir, c'est qu'il faut laisser la liberté des processus naturels. Et aussi, c'est parce que dans la nature, si on n'est pas végétarien, c'est que les animaux ne sont pas végétariens, si je puis dire. Hein. C'est qu'il y a des prédateurs. Et si on prend l'almanach d'un comté des sables, alors Léopold est un écolo, un environnementaliste qui chasse, hein, et qui, je n'ai pas le temps de développer, mais dans une série de vignettes emblématiques de son almanach, s'il se présente comme un chasseur, c'est qu'il se présente à égalité avec d'autres prédateurs, ou en compétition avec d'autres prédateurs. Hein. C'est l'historiette très célèbre de Penser comme une montagne, où tout vient de la comparaison que Léopold fait entre lui le chasseur et le loup le chasseur. Donc, d'un côté, une très très forte valorisation du sauvage, qui sert de référence, et de l'autre, une très très forte dévalorisation du domestique, qui est, alors là aussi, bon, je renvoie à des choses qui ont été dites ce matin et sur lesquelles on va rebondir, mais pour Callicott, domestiquer et artificialiser, c'est tout un pareil. Hein. C'est-à-dire, Callicott, dans son article, parle, je crois que c'est des vaches, hein, as living artifacts, hein, comme des artefacts vivants, et je peux dire, living, ça ne veut plus rien dire. Hein. C'est des artefacts, et ça ne vaut pas plus qu'un artefact. Hein. Quand ma montre est cassée, je la jette. Hein. Ben, quand ma vache ne vaut plus rien, je la jette. Là, ça n'a aucun intérêt, aucune valeur. Hein. La liberté, c'est du côté du naturel et du sauvage. Les animaux, parce qu'ils sont artificialisés par l'humanité, entraînent une complète dévalorisation du domestique. Et je dirais, c'est non seulement une position dualiste, mais c'est opposition nature, société, sauvage, domestique, mais c'est une opposition qui, dans tous ces dualismes, les identifie tous. Hein, c'est-à-dire, si c'est domestique, c'est la même chose qu'artificiel, et c'est la même chose que civilisé. Hein, donc, ce dualisme extrêmement rigide et syncrétique conduit, bon, ce que j'appelais l'éthique du dentiste, hein, l'éthique de diminuer la souffrance, il y a peut-être des gens qui ont souffert chez le dentiste et qui trouvent que les dentistes n'appliquent pas très bien leur éthique, hein, mais les dentistes américains font très très attention à ce qu'on est pas mal. Callicott appelle ça enrobé de sucre, hein, sugar coating, ça n'a aucune valeur morale. Alors, je vais terminer et puis laisser la parole à Raphaël. En signalant que, notre propre position sur l'article de Callicott, je crois qu'il faut, il y a les deux arguments, hein, l'opposition individualisme-holisme d'une part, l'opposition sauvage-domestique de l'autre, sont des arguments très différents. Alors, je vais pas développer du tout l'opposition individualisme-holisme, parce que c'est pas essentiellement, quoi qu'en dise Callicott, je dirais presque qu'il n'est pas de très bonne foi là-dessus, c'est pas essentiellement une opposition entre les éthiques animales et les éthiques environnementales, étant donné qu'on retrouve exactement la même opposition à l'intérieur des éthiques environnementales, entre d'un côté justement les éthiques de la valeur intrinsèque, qui elles continuent l'extension, hein, simplement on saute la frontière du sensible, et on va reconnaître une valeur à tout être vivant, et même à la limite pourquoi pas aux virus, qui ne sont pas des êtres vivants, mais ça ne fait rien. Hein. Donc c'est une opposition intérieure, et je dirais en plus... Elle mélange, dans les arguments de Callicott, ça mélange, je dirais, le relationnel et le holiste. Hein, ça dit à la fois, moi, ce que j'appelle souvent la bonne nouvelle de l'écologie, nous faisons partie d'un monde dont les composantes sont interdépendantes, et puis, ça, c'est ce que j'appellerais le relationnel, et puis, une vision englobante, c'est-à-dire, il faut trouver une unité. Hein, et alors, ce sont deux choses différentes. Mais je ne vais pas développer ça, parce que ça me ferait complètement sortir de la question du rapport entre éthique animale et éthique environnementale. Inversement, si on prend en compte la deuxième distinction, celle du sauvage et du domestique, je pense que c'est une distinction beaucoup plus intéressante. Pour deux raisons, et je vais passer la parole à Raphaël. Je dirais que, bon, elle est fortement romantique. C'est vraiment l'opposition, à mon avis, romantique par excellence et qui insère l'éthique environnementale américaine dans le romantisme américain, hein, qui n'est pas d'ailleurs exactement le même que le romantisme allemand, mais peu importe. Hein. Mais, bon, nous, on n'est pas extraordinairement romantique, donc on ne s'y accroche pas beaucoup. Bon, on n'a pas un goût du sauvage pour le sauvage. Mais elle nous paraît intéressante, en ce sens qu'elle désigne quelque chose que, me semble-t-il, les éthiques animales ne peuvent pas caractériser de l'intérieur. C'est-à-dire que, eh bien, on n'a pas forcément à avoir la même conduite à l'égard de tous les animaux, suivant le degré de relation, le degré de naturalité, avec beaucoup de guillemets, dans lequel ils se trouvent. Je veux dire, si on se dit, par exemple, si on part de l'idée qu'il faut interdire la souffrance aux animaux, bon, ça a un sens pour les animaux avec lesquels nous vivons. L'idée de contrôler la nature entière, de faire en sorte que les lions ne mangent pas les gazelles, parce que les pauvres gazelles, elles souffrent, ça devient non seulement un peu absurde, mais on peut montrer que c'est une volonté de maîtrise complète. Hein. C'est-à-dire que ce que dénoncent les éthiques animales, c'est-à-dire la volonté de domination de l'homme, eh ben, on transforme le maître et possesseur en maître et protecteur, mais c'est toujours un maître. Donc ça me paraît extrêmement ambigu. Donc on peut tenir l'idée que on n'a pas les mêmes rapports, on n'a pas les mêmes responsabilités et on n'a pas forcément les mêmes devoirs, les mêmes conduites à l'égard des animaux. Donc on a essayé de rebondir là-dessus, mais ce qu'on a sérieusement, complètement remis en question, c'est la dévalorisation du domestique. C'est l'idée que un animal domestiqué est un animal qui ne vaut plus rien. Hein. Alors je crois que là, on peut absolument s'inscrire dans la lignée de tout ce qui a été dit ce matin, aussi bien par Chris, sur à partir du moment où on domestique, et je reprendrai volontiers son sens de domestique, à partir du moment où on domestique un animal, on a des devoirs à son égard et on peut pas le traiter comme une chose qu'on jette. Hein. Et je passe la parole à Raphaël. À partir de là, qu'on a essayé de développer notre propre position.
D'accord. Oui, alors, de même que l'avait fait donc Callicott, hein, mais sans partager le mépris dans lequel il tient les animaux domestiques, il nous a semblé absolument indispensable de distinguer les animaux sauvages du cas des animaux domestiques.
T'as pas de micro.
Et ça, c'est à partir de, je dirais, d'une conception quasiment communautarienne de l'éthique, à savoir une remarque que les règles de comportement que nous, les humains, adoptons envers d'autres humains, dépendent des relations qu'on entretient avec eux. On peut, par exemple, se sentir solidaire d'autres hommes qui sont frappés par un malheur à l'autre bout de la planète, mais ça ne va pas se traduire de la même façon que si le malheur atteignait des gens qui soient nos proches, nos voisins, nos amis, nos collègues, nos camarades syndicaux, tout ce que vous voulez. Ne serait-ce parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités d'intervention aussi. De même, nous n'adoptons pas les mêmes règles de comportement selon les communautés humaines auxquelles nous appartenons, puisque nous appartenons à différentes communautés, depuis la famille jusqu'à l'humanité, ou celles que nous fréquentons, dans lesquelles nous sommes. Si je me conduis, en Amérique du Sud parmi les Indiens, les Amérindiens de Guyane, comme je me conduis ici, je serai vraiment très mal poli et j'essaierai de me conduire selon les règles de comportement, de sociabilité, qui sont les règles de ces communautés. Donc si on élargit ces propositions aux animaux, on se rend compte qu'on ne peut adopter les mêmes règles de comportement envers les animaux sauvages qui mènent une vie indépendante et des animaux domestiques qui dépendent de nous. De même que nous n'entretenons pas, si on part de cette idée, je dirais, d'une éthique fondée sur le type de relation, nous n'entretenons pas avec les animaux sauvages d'une part, les animaux domestiques de l'autre, les mêmes types de relations que celles que nous pouvons avoir avec ces cas intermédiaires que sont soit les commensaux, soit des animaux sauvages qu'on est parvenu à individualiser. Alors, les animaux que nous entretenons avec les animaux sauvages, nous avons... Bon, alors là, je ne développerai pas, parce qu'on a suffisamment écrit là-dessus. Enfin, avec les animaux, c'est comme avec l'ensemble des êtres sauvages, relève bien plus, à notre avis, d'une éthique environnementale. Parce que, de ce point de vue, ce qui importe, ce n'est ni la vie, ni les intérêts, ni la liberté de mouvement de tel ou tel spécimen, de tel ou tel individu, mais la survie et les possibilités d'adaptation d'une population qui vit dans un territoire donné, voire de l'espèce elle-même, dans les cas les plus graves. Alors j'essaierai d'illustrer ça après sur deux cas. Je prendrai, si j'ai le temps d'ailleurs, enfin, sur un cas non plutôt. Le cas du retour des loups dans le Mercantour dont tu as parlé, Jocelyne, enfin dans le Mercantour et ailleurs. Et puis, bon, sur la question du rapport problématique, parce que là, nous n'avons pas d'idée très claire sur le type d'éthique qui serait à développer avec les commensaux, je donnerai quelques anecdotes comme ça pour montrer qu'on n'a pas le même rapport avec les commensaux qu'avec les animaux sauvages ou avec les animaux domestiques.
Que sont les commensaux ?
Les commensaux, ben, c'est des animaux qui sont sauvages, que l'on ne contrôle pas. On n'en contrôle pas la reproduction, on n'en contrôle pas non plus l'alimentation, mais qui suivent les populations humaines, qui vivent en proximité et que l'on voit constamment. Alors on peut dire que les souris sont des commensales, des humains. Le chat, pendant très longtemps, a été un commensal de l'homme parce qu'il était là pour... Justement, comme les souris étaient là, les rats étaient là, les chats étaient là pour se nourrir de souris et de rats. Et d'une certaine façon, il n'est devenu animal domestique que quand est arrivé le Rattus norvegicus, contre lequel le rat était impuissant. Le chat était impuissant et du coup, ben, ma foi, il a trouvé assez malin de se faire domestiquer pour avoir sa nourriture facilement. Quoi. Donc, alors, pour les animaux domestiques, hein, ceux qui sont sous la responsabilité des éleveurs, nous avons repris à notre compte, au fond, l'hypothèse, qui est une hypothèse anthropologique, de Marie Miglet. Je la cite. « Toutes les communautés humaines ont intégré des animaux. Il en est ainsi depuis le néolithique, de telle sorte qu'entre les animaux et les hommes se sont établis des rapports de sociabilité. » D'ailleurs, remarque Marie Miglet, et bien d'autres l'ont remarqué après, en même temps qu'elle, et après, ou avant même, la domestication ne fut possible que parce que les hommes ont su utiliser à leur profit les rapports de sociabilité existants chez certaines espèces animales. Ce qui fait que, je peux citer Miglet aussi, « Toutes les créatures qui ont été domestiquées avec succès étaient originellement sociables. Elles ont transféré aux êtres humains la confiance et la docilité dont elles faisaient preuve à l'état sauvage envers leurs parents, puis adultes envers les animaux dominants de leur meute et de leurs troupeaux. Ensuite, par ailleurs, on s'est bien employé au moment de, par la sélection, à développer la néoténie aussi chez les animaux domestiques, qui sont des formes généralement juvéniles de, par rapport aux animaux sauvages. Les animaux domestiques sont de ce fait en quelque sorte des membres subsidiaires de la communauté humaine. Ça les distingue des animaux sauvages, ça les distingue des commensaux. Ça signifie aussi que si les animaux domestiqués sont soumis à une relation hiérarchique, il y a néanmoins entre eux et ceux qui les élèvent des échanges de biens, des échanges de services, des échanges d'affects. Ces relations réciproques sont, dans un premier temps, à l'avantage des deux parties, tant comme s'il y avait une sorte de pacte entre les hommes et les animaux qu'ils ont domestiqués. Et donc, c'est ce que nous avons. Il y aurait en fait entre les hommes et leurs animaux une sorte de contrat domestique tacite, qui impose aux premiers de ne pas maltraiter les seconds, et au contraire d'essayer de bien les traiter jusqu'au sacrifice de leur vie. C'est donc un contrat extrêmement draconien, qui se traduise par un contrôle permanent ou par un simple pilotage. L'élevage correspond à la prise en charge, en fait, de la protection contre les ennemis naturels et contre les maladies, de l'alimentation et de la reproduction de l'animal domestique. Cette prise en charge impose à l'éleveur des obligations auxquelles correspondent des droits de l'animal, droits à la sécurité, à la santé, à la subsistance et à la reproduction dès l'instant qu'il est animal domestique. Je remarquerai enfin qu'il ne s'agit pas là d'un contrat d'individu à individu, bien sûr, mais d'un contrat qui formalise les règles de comportement sans lesquelles il n'aurait pas pu y avoir de communauté mixte possible entre les hommes et leurs animaux domestiques. En gros, un contrat à la Rousseau, hein, pas à la Hobbes, un contrat qui suppose et qui soutient l'appartenance à une même communauté. C'est ce qui rejoint, quand l'Estelle dit... La grande question, c'est d'inventer des façons de vivre ensemble dans la cité. Alors, donc voilà, nous sommes partis avec l'idée que, d'une part, on pouvait s'intéresser, si on s'intéressait aux animaux sauvages, il fallait appliquer une éthique environnementale, et si on s'intéressait aux animaux domestiques, pour notre part, nous sommes beaucoup plus tentés par une éthique relationnelle aussi, donc du contrat domestique, tout en reconnaissant que là, sur les animaux domestiques, les éthiques animales, celles qui vous viennent de vous être présentées, avaient bien évidemment leur mot à dire et qu'on peut continuer à discuter sur cette question. Alors, je voudrais vous montrer un cas où, de mon point de vue, les éthiques animales ont peu de choses à dire, justement, parce qu'il s'agit d'une interaction entre espèce animale et espèce domestique. Et où, au fond...
Quoi ? Espèce sauvage, entre population sauvage.
Entre population sauvage et population domestique. Et où, par contre, la démarche que nous avons prise permet, au fond, de... non seulement de dégager quelques idées de ce que l'on pourrait faire, mais en plus de distinguer des cas qui sont très différents. Alors, ces deux cas, c'est le cas du loup, le retour du loup en France, et c'est le cas de l'ours. Alors, il faut bien voir qu'au siècle dernier, les loups avaient disparu du territoire français. Et il est revenu. Alors là toi, tu dis réintroduit. Non, il n'a pas été réintroduit. Je me souviens qu'on était dans les années, à la fin des années 80 en Toscane. Et il était déjà au nord de la Toscane, au nord de... Il était remonté des Abruzzes. Et en 90... Il y a même eu une longue discussion au sein du Conseil national de protection de la nature où on demandait, où certains d'entre nous demandaient au ministère de commencer en disant les loups vont arriver en France, ils sont déjà de l'autre côté de la frontière, il faut préparer l'opinion à ça. C'est que le ministère a voulu se cacher la tête, a joué l'autruche jusqu'au moment où un journaliste a dit ben on a trouvé, il y a des loups. Bon, hop. Et à partir de là, tous les fantasmes ont pu se développer sur la réintroduction de loups, puisque le ministère avait tellement voulu cacher la chose, c'est qu'il l'avait lui-même réintroduit. Mais il est revenu normalement. D'ailleurs, actuellement, le loup arrive à traverser le Rhône, les autoroutes, et on a retrouvé des loups des Abruzzes. Pas des échappées de culture, j'allais dire, pas des échappées d'élevage de loups dans les Cévennes, et on en a retrouvé aussi dans les Pyrénées-Orientales. Donc on a une population qui est en cours de colonisation. Pourquoi ? Alors, ils ont provoqué des ravages considérables dans les troupeaux de moutons. Alors pourquoi tant de dégâts ? Il se trouve que dans un premier temps, quand les loups sont arrivés, les troupeaux de moutons en estive dans les Alpes, c'est des élevages pour la viande, n'étaient pas systématiquement gardés. Certains étaient laissés libres sur les parcours en estive, on leur portait juste du sel. D'autre part, il y avait l'état des cabanes, alors là je peux vous le dire, dans le Mercantour est tel que je comprends bien les bergers. Le soir, au lieu d'aller dormir dans ces ruines ouvertes à tout vent, ils descendaient, ils laissaient les moutons dans les pâturages et puis ils descendaient dormir dans les hameaux ou dans des cabanes qui étaient à 3-4 km de l'endroit où était le troupeau. Mettez-vous à la place d'un loup, vous aimez bien les chamois. Il faut courir après eux. Puis voilà qu'on vous sert des troupeaux entiers comme sur un plateau. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites votre ordinaire des brebis et les chamois, c'est pour les plates-fêtes. Donc, alors, bien évidemment, pendant les éleveurs ont exigé que les loups soient éradiqués, d'où un conflit ouvert avec les protecteurs de la faune sauvage et les agents du parc national. Alors, la question, alors, comment régler, au fond, Je vais peut-être parler des ours des Pyrénées avant, et puis je parlerai après de la façon dont on peut y réfléchir. Les ours des Pyrénées, c'est un cas tout à fait différent. Les ours des Pyrénées n'ont pas disparu, bien qu'ils aient été chassés au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ils se sont maintenus. J'ai toujours soupçonné, d'ailleurs, que les chasseurs protégeaient plus ou moins les ours, parce que c'était un gibier de choix. Mais ce n'est pas évident. Ils étaient chassés, ils se sont maintenus, jusqu'à ce qu'au fond, il y a eu désenclavement des alpages par des routes et des pistes carrossables qui a fragmenté l'habitat, ce qui a diminué une population affaiblie. Et puis surtout, le fait qu'ils sont dérangés constamment, alors là, il y a des époques pas favorable par des battues, qui ne sont pas des battues contre les ours, mais des battues contre les sangliers, mais qui en même temps dérangent les ours. Alors, il se trouve qu'en plus de ça, à l'occasion de certaines de ces battues, il y a des ours qui ont pu être flingués par des chasseurs, dont la dernière femelle. Alors, c'est embêtant. Ça. Ici, il n'y a plus de femelles. S'il n'y en a plus, entre Aspe et Osso, alors qu'il y a eu stupidement des réintroductions de quelques ours slovènes à 50 ou 60 km de là et pas là où il y avait déjà des ours. Ça, c'est pour des raisons politiques complexes. Les dommages occasionnés par les ours sont sans commune mesure avec ceux des loups du Mercantour ou de la Vanoise ou des Bauges ou de toutes les Alpes. Maintenant, il commence même à y en avoir dans le Jura. Leur protection est mal acceptée, d'autant plus qu'elle suppose une limitation de la chasse et de la circulation dans certaines zones sensibles. Alors, si on prend la question des... Que dirait à ce moment-là les éthiques animales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va flinguer les loups? Est-ce qu'on va les éradiquer? Est-ce qu'on va les laisser faire? Tuer les loups, les éradiquer, c'est effectivement porter atteinte à leur vie, à leurs intérêts et à leur liberté d'action. Bon. Mais si on s'abstient de le faire, les loups vont dévorer. Alors, une meute de loups, ça peut dévorer, ça peut tuer 200 à 300 brebis dans son année. En stresser beaucoup plus, à ce moment-là, on laisse faire quelqu'un qui va perpétrer un acte de tel que la vie, les intérêts et la liberté de mouvement des brebis ne soient plus du tout respectés. On est donc en face d'un dilemme. Idem pour les ours. À ceci près que les ours tuent moins de brebis que au fond, si on laisse faire l'ours, ça sera plus grave pour les ruchers et pour les abeilles que pour les brebis. Bon. Mais en dehors de ça, on a la même indécision, et je pense que la plupart des défenseurs des éthiques animales, comme les défenseurs d'une éthique biocentrique critiquée par Callicott, et à la limite comme Callicott, puisqu'il n'a que mépris pour les brebis, tout le monde dira, eh ben, il faut surtout pas tuer les loups, laisser les vivre, laisser-les bouffer les brebis. Bon. Alors, le point de vue que nous, on défendrait, diffère assez largement de ça. On considérera qu'au fond, pour le loup, ce qui est important, c'est le sort des populations de loups, pas celui de tel ou tel individu. Or, si le loup revient dans les régions d'où il avait disparu depuis le 19e siècle, c'est qu'il est en face d'un contexte favorable qui lui fournit une niche écologique toute prête. La déprise agricole et l'extension consécutive de superficies boisées sont favorables aux loups. Depuis le lendemain de la guerre mondiale, les chasseurs, qui ont voulu renforcer les effectifs d'ongulés, ont modéré leurs prélèvements, ont même parfois nourri avec des cultures spéciales ou agrainé des populations d'ongulés sauvages. Et donc, il y a de la nourriture toute prête. Dans de nombreuses régions de montagne, les loups comme les lynx trouvent dans des milieux qui leur conviennent des proies disponibles et puis des troupeaux de moutons qui ne sont pas trop gardés et qui leur offrent en plus des proies accessibles. Bah, écoutez, on est en face d'une population en plein essor. D'un point de vue écocentrique, du point de vue de la communauté biotique, ça suppose que les loups ont une place dans ces régions. Mais ça suppose donc qu'il est exclu d'éradiquer toutes ces populations de loups. Mais, en plus de ça, ça serait inutile. Mais ça signifie que la population de loups du Mercantour est en expansion. Enfin, du Mercantour et de la Vanoise et tout. De toutes ces Moi, je parle beaucoup du Mercantour parce que c'est ce que je connais le mieux. De ce même point de vue, il n'est pas interdit, finalement, de trucider un loup. Ou un nombre de loups insuffisant pour mettre en danger la survie de la population, puisque, au fond, ça ne menacera pas la population de loups. L'éthique environnementale, dans ce cas, admettra les battues, car elles sont parfaitement inefficaces. Alors là, sur toute la longueur du 19e siècle en Lozère, il a dû y avoir 3 loups de tués par des battues, et Dieu sait s'il y en avait dans tous les endroits. Donc on fait des battues, ça calme les gens, mais ce n'est pas efficace. Elle admettra aussi, elle refusera l'usage du poison, mais autorisera les éleveurs ou les gardes du parc ou l'office de la chasse à tirer sur les loups qui attaquent les troupeaux. Si on prend le versant domestique de l'affaire, avec la thèse du contrat, on se trouve en présence d'un élevage très extensif. Et cet élevage très extensif fait que, dans bien des cas, le berger pilote son troupeau en le dirigeant vers les ressources fourragères disponibles, assure éventuellement un complément de nourriture, contrôle la reproduction, mais des contraintes économiques ont-elles obligé les éleveurs alpins à cesser de garder leurs troupeaux pour une partie ou une partie de la journée, hein, souvent la nuit. Et cet abandon du gardiennage est dommageable à la sécurité des bêtes. D'où l'idée que, au fond, on peut considérer que les éleveurs, ils le disent, ils le savent eux-mêmes, qui ont lâché leurs brebis sur les alpages et viennent de temps en temps leur rendre visite, ou ceux qui les laissent la nuit pour aller dormir quand même au chaud et tranquillement dans les... ces brebis, enfin, ce n'est pas des éleveurs, c'est des bergers. Souvent, ces bergers ont très conscience d'avoir effectivement un peu rompu le contrat avec l'animal, hein, de pas vraiment. Et quand effectivement ils reviennent et ils voient les animaux bouffés par des loups ou une partie des animaux, ils sont extrêmement dépités et ça les met en cause. D'où l'idée que la rencontre entre ces deux éthiques, entre ces deux, le contrat domestique d'une part et d'autre part l'éthique environnementale, c'est d'un point de vue environnementaliste, puisque l'État tient à ce qu'il y ait des loups, eh bien il faut permettre aux éleveurs et aux bergers qui, pour des raisons économiques, ne peuvent plus protéger leurs troupeaux, de prendre les mesures de protection de troupeaux. Donc il faut reconstruire des cabanes à proximité des couchades, les financer, les faire financer par l'État, à la fois, puisque c'est ce qui est en train de se faire. Il faut aider par des subventions les éleveurs à ce qui a été fait aussi. Il a fallu aider les éleveurs à acquérir des patous, c'est-à-dire des chiens de garde, à apprendre à jouer, à apprendre à dresser, ce qui n'est pas évident parce que c'est un peu contre-intuitif pour quelqu'un qui a l'habitude de chien de protection qui commande au pied, qui commande au moindre geste. C'est assez peu intuitif d'élever un chien, un gros chien qui est dans le troupeau et qui doit se penser comme une brebis, sauf que c'est une brebis qui est capable de flanquer la pile à un loup, quoi. Bon, voilà. Et donc, je pense que là, on a 5 minutes, d'accord. Ça, oui. Donc, il y a cet aspect. Et d'une certaine façon, on peut avoir donc on peut avoir des préconisations en disant, mais au fond, on peut satisfaire, aider les gens à satisfaire le contrat domestique, hein, de façon à ce que, du point de vue environnemental, le loup puisse coexister avec l'élevage, qui lui-même représente des avantages au niveau environnemental dans ce type de région. Donc il y aura vraiment une divergence entre ce que diront les éthiques animales et ce que peut dire une éthique environnementale particulière, relationnelle, si vous voulez, et les éthiques et une éthique environnementale.
Quoi ? Non, entre une éthique environnementale et une éthique du contrat.
Du contrat, voilà. Et donc il y a convergence là. Il y a convergence des deux éthiques, mais divergence entre éthique animale et ce que nous proposons. Par contre, je dirais, pour l'ours, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'ours, de deux choses une, ou bien d'un point de vue environnemental, ou bien on considère qu'il y a tellement peu d'ours que la population est fichue et que ce n'est pas la peine d'essayer de la sauver. Je ne serais pas loin de le penser. Ou bien on considère qu'il y a encore quelque chose à faire. Alors là, effectivement, s'il y a encore quelque chose à faire pour sauver la population d'ours, du point de vue environnemental, d'une éthique environnementale, comme du point de vue d'une éthique animale, il faut absolument préserver, accorder un droit de vie à tout individu ours. Parce qu'ils sont tellement menacés que la mort d'un seul individu est quelque chose qui peut menacer, mais qui a déjà menacé l'avenir de la... Bon, alors, je vais m'arrêter là, juste deux secondes pour dire, je voudrais simplement évoquer les cas intermédiaires. On n'y a pas vraiment réfléchi, mais c'est en discutant comme ça qu'on s'est dit, mais au fond, la démarche qu'on a peut avoir l'avantage de pouvoir dégager une thèse sur l'attitude qu'il conviendrait d'avoir avec ces êtres qui sont à la fois sauvages et familiers. Alors, je vous donnerai pour ça deux anecdotes en vitesse. Lors d'une enquête à laquelle j'ai participé il y a quelque temps, on faisait parler des éleveurs des Alpes du Nord, des animaux, de la nature, de ce qui changeait dans la nature. Et tous, la première chose qu'ils nous ont dit, alors pour les changements, les transformations, il y avait d'abord la transformation du paysage, ça on s'y attendait, et juste après venait, mais il n'y a plus d'hirondelles. Il n'y a plus d'hirondelles, il y a de moins en moins d'hirondelles. Comment ça se fait? Et alors, l'hirondelle n'est pas, c'est un animal sauvage, mais c'est un animal qui est aussi très lié aux humains, à tel point, alors du coup, ça m'a rappelé quelque chose que jouant au ballon avec un cousin, j'avais comme ça, on appelle ça le caroui ou dans les Landes, j'avais dégommé un nid d'hirondelles. Et mon oncle, qui, quand on avait été déniché des oiseaux, lui-même était d'ailleurs un chasseur d'alouettes. Il ne nous disait rien, et là, il nous avait vraiment sacrément engueulé. On s'était pris une très forte engueulade, parce que ce n'était pas un animal comme un autre. C'était un animal auquel il ne fallait pas toucher. C'est comme si je lui avais tué une poule, quoi, d'une certaine façon. Autre exemple qui me fait penser qu'il faudrait... réfléchir à un type de rapport particulier pour des animaux qu'on est capable d'individualiser comme ça. J'ai rencontré un jour un taupier. C'est un type qui, dont le métier est de débarrasser le terroir dans lequel il est de toutes les taupes qui s'y trouvent. Pas de toutes, bien sûr. Sinon, il n'aurait plus de travail, donc il faut qu'il en laisse. Mais alors, c'est quelqu'un qui piège et c'est des gens, alors j'essayais de comprendre ce qu'ils savaient, c'est des gens qui savent plein de choses, qui sont capables de voir, en fonction des trous, quelle est la taupe qui a fait qui a fait cette butte, quelle est la taupe qui a fait telle autre butte, et de reconstituer en sous-sol les... Et alors ce type me raconte que pendant 6 mois, il y avait toujours la même taupe qu'il essayait d'avoir, qu'il n'arrivait pas à avoir. Ça a été un travail épouvantable. Et c'est, pour lui, c'était devenu une véritable obsession. Il fallait qu'il l'ait, quoi. C'était Moby Dick, sauf que c'était une taupe. Et puis, il y va. Et un jour, il a la taupe. Et il revient, il me raconte qu'il était triste. Mais il était triste. Et il dit que pendant un mois, il n'a plus pu aller chasser des taupes. Donc vraiment... se rend compte que là, il y aurait quelque chose. Quel type d'attitude à trouver envers ces animaux-là? Voilà. Merci à tous.
On a tous nos histoires d'hirondelles, mais c'est tellement bon à entendre. Merci à tous les deux.
Oui, j'aurais juste une petite remarque rapide. Je suis d'accord avec votre proposition sur les loups, mais je pense pas qu'on puisse parler d'un dilemme entre l'éthique animale et l'éthique environnementale. À mon avis, il s'agit d'un dilemme entre l'éthique environnementale, peut-être en tant que telle, je ne sais pas, je ne connais pas assez ça, mais avec une partie extrêmement minoritaire de l'éthique animale. Parce que je voudrais dire que la question de l'empêchement de la prédation dans le monde sauvage, qui se pose avec la question du loup, mais surtout l'exemple du lion et de la gazelle. C'est quelque chose qui a été, dans le monde de l'éthique animale, avancé par un seul auteur, qui est Sapontis. Il est le seul à avoir dit on devrait empêcher, si c'était possible, le lion de manger la gazelle. Tous les autres, Singer, tous les grands classiques, ont dit mais non, c'est aberrant, on devrait laisser la prédation se faire. Autrement dit, le traitement différentiel et la distinction, la pertinence morale de la distinction entre animaux domestiques et animaux sauvages et l'adaptation de notre comportement à ces deux mondes, elle est déjà prise en compte dans l'éthique animale. Ce n'est pas un dilemme entre l'éthique environnementale et l'éthique animale, à mon avis.
Vas-y. Non, oui. Je pourrais polémiquer longuement, ouais, sur l'éradication de la douleur, etc. Mais parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit ça, en fait.
Mais bon. Il y en a plusieurs pour la prédation. Non, mais alors, ce que je dirais, où il y a dilemme, hein, je dis, non, les éthiques animales se trouveraient devant un dilemme. Pourquoi ? Parce que c'est le dilemme du j'empêche un acte de se faire. Si je n'empêche pas un acte de se faire, je suis responsable de cet acte, d'une certaine façon. Donc, si je n'empêche pas le loup de bouffer des brebis, je porte en moi une certaine responsabilité des brebis.
Si.
Alors là.
Non, mais on peut partir dans les polémiques.
Là, c'est un raisonnement parfaitement utilitariste. Hein. Mes brebis, elles représentent une possibilité de souffrance. Si je n'empêche pas un loup de tuer 200 brebis, il y a 200 brebis qui vont. Je n'ai pas augmenté le bien-être social, le bien-être total. J'ai diminué le bien-être du loup.
On pourrait débattre effectivement.
On pourrait débattre très longtemps parce que
ce que voulait dire Jean-Baptiste, c'est que la plupart des éthiques animales ne proposent pas que l'homme se fasse législateur de la morale de la nature. Elles proposent strictement que viser que la responsabilité de l'homme vis-à-vis des espèces animales. Voilà. Donc elles éludent la question.
Mais c'est pour ça que ce que je disais au fond, c'est que dans le cas des loups du Mercantour, la plupart des éthiques animales feraient comme l'éthique biocentrique à laquelle adhèrent d'ailleurs la plupart des militants écolos, diraient il faut surtout ne pas toucher au loup. Point final. Hein. Et continuerait la guerre avec les éleveurs. C'est allé à un tel point que, bon, dans les moyens d'effarouchement des loups, il y a le seul qui soit vraiment efficace à long terme, c'est la cartouche à gros sel. Cartouche à gros sel, ça tue pas le loup. Ça ne risque pas de le rendre très malade, mais il comprend sa douleur, en gros. Et il y a un certain nombre de gens qui disent, mais pour apprendre au loup à vivre, on autorise ceux qui ont déjà des patous, qui gardent déjà leurs troupeaux, ou qui les font garder par des bergers, des aides-bergers, on les autorise à tirer à la cartouche à gros sel. Eh bien, la discussion, je vois par exemple en conseil scientifique du Mercantour, a été très longue, et la majorité, pour des raisons de valeur intrinsèque du loup et pour des raisons d'éthique animale spontanée, hein, c'est des gens qui n'ont pas lu ni Singer ni etc. On dit non, il faut pas. Hein. C'est là que je me dis bon, on a des
Non, si je peux dire, l'originalité de la position qu'on essaie de défendre, c'est d'autoriser certaines attaques de loups, la possibilité d'en tuer quelques-uns ou d'en effrayer un certain nombre. Voilà. Et quelque chose qui est difficilement justifiable dans la majorité des éthiques, aussi bien biocentriques strictes que certaines intuitions spontanées des éthiques animales qui sont défendues dans les conseils de parc, etc.
Je comprends mieux maintenant et je vois que la différence essentielle entre l'argument du loup et des 200 moutons et puis l'argument de la prédation qu'on retrouve dans la littérature d'éthique animale, c'est que l'argument de la prédation, c'est deux animaux sauvages entre eux. Et là, la plupart des acteurs disent non, on ne doit pas intervenir. Voilà. Tandis que dans le cas qui nous occupe ici, on a une responsabilité à l'égard de ces 200 moutons qu'on n'a pas à l'égard de la gazelle.
Voilà.
Donc c'est ça la différence.
C'est ça la différence.
Voilà. Oui, j'aurais juste posé une question qui tente beaucoup sur votre thèse à vous. Est-ce que, votre thèse du contrat, etc., est-ce que vous vous reconnaissez dans une éthique gradualiste un peu semblable à celle proposée par Deval, que je vais résumer de façon un peu caricaturale, l'homme a des devoirs primordiaux envers sa famille et ses proches, puis ensuite envers le groupe dans lequel il vit, puis son pays, puis l'humanité, puis les animaux domestiques par contrat, puis est-ce que vous reconnaissez une telle éthique gradualiste ou non?
Alors, je réponds. Tu y vas, Sahel?
Vas-y.
Je dirais qu'on n'a pas une éthique gradualiste en ce sens, parce que ça suppose des hiérarchies impossibles. Hein. On a la vieille hiérarchie stoïcienne, hein. Si on me permet de citer Montesquieu, qui est mon autre casquette, Montesquieu dit « Si je savais quelque chose qui me fût utile à moi, mais qui fût nocive à ma famille, je me tairais. » Donc il y a la gradation, on a des devoirs. Plus c'est universel, plus on a des devoirs.
Voilà, ça se termine. Si je savais quelque chose qui fût utile
à l'Europe.
Mon pays.
Non, à l'Europe.
Mais inutile à l'Europe,
je me tairais.
Nuisible,
Bon, bref.
Et donc c'est la hiérarchie.
C'est l'emboîtement.
Je le considérerais comme un crime.
C'est l'emboîtement, ouais, c'est ça. C'est l'emboîtement stoïcien. Plus c'est universel, plus c'est un devoir. On a une inversion actuelle en on a plus de devoirs à l'égard des proches qu'à l'égard des lointains. Alors, c'est bien sûr, c'est pas universalisable parce qu'on tombe dans du Le Pen. Donc,
ce que dit Deval.
Oui, mais attends, c'est pour ça, moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je dirais il y a différents types de devoirs. C'est-à-dire, j'ai bien évidemment, et nous le savons tous, imaginé qu'à Noël, j'ai fait des plus beaux cadeaux aux petits-enfants d'amis lointains qu'à mon propre petit-fils. Tout le monde penserait que je suis pas très correct. Donc, il y a quelque chose de pas normal. Donc là, on pensera que le proche compte. Mais il est bien évident que si moi, en tant que responsable de mon centre de recherche à Paris 1, je favorise mon petit-fils par rapport à quelqu'un d'autre, on pensera que je fais du népotisme. Donc, il n'y a pas une règle systématique. Donc, je dirais qu'on a une éthique contextuelle. C'est-à-dire qu'il faut, il y a différents types de devoirs, et il faut ordonner les devoirs, et il peut arriver que j'ai peut-être plus de devoirs vis-à-vis de mon chat que d'un humain très très lointain, étant donné le type de devoir et le type de hiérarchie de devoir. Donc moi, je ne veux pas trouver une règle, parce que si on trouve une règle, on n'y arrivera pas.
Ouais. Notre question, attendez.
Merci. Moi, j'aurais une remarque et une question, une remarque un peu pratique et une question un peu plus théorique. La remarque concerne les loups. Et je ne sais pas si vous connaissez les travaux récents de l'anthropologue anglais Gary Marvin qui concernent les loups, mais il a en fait des études très intéressantes sur le fait que dans les endroits d'Europe qui ont toujours eu des loups, comme par exemple dans les Balkans, les loups sont très très bien acceptés, il n'y a aucun problème. Et que c'est justement... Donc c'est ça, au-delà de la scission de l'éthique environnementale et animale, je crois que le problème est une question d'attitude humaine avant tout. Et en particulier dans le Mercantour, que je connais bien aussi, il y a d'énormes problèmes qui ne sont pas uniquement liés aux loups, et en particulier aux chiens errants qui font au moins autant de dommages que, si ce n'est plus, hein, que les loups, et dont les dommages sont souvent, voilés par les bergers qui sont dans une situation à la fois économique difficile et sur le plan de l'attitude vis-à-vis de l'animal sauvage, ont quand même une attitude assez monolithique très souvent. Hein. Donc ça, c'était la remarque. Et la question concernait la première partie de l'exposé, et je suis toujours attristée d'entendre que le schisme entre l'éthique environnementale et animale ne se répare pas, ne se comble pas. Et j'étais donc très triste de vous entendre nous le rappeler. Et je me demandais si vous ne voyez pas une lueur d'espoir, parce qu'il y a quand même, en particulier dans le développement de la philosophie qui est écrite par les écoféminismes, je pense à Val Plamoud ou par ailleurs avec des philosophes que vous avez d'ailleurs cités comme Mary Midgley, qui ont une vision extrêmement holistique et, si je peux dire, gaïesque de l'animal, hein, enfin, dans son livre « Science et philosophie », elle en parle énormément. Donc je me demandais si vous voyez une lueur d'espoir et de réconciliation en ce qui concerne...
Pour la lutte de classe, non, je vais vous répondre, vas-y, sur le loup.
Tu ne veux pas répondre d'abord ? Puis je répondrai sur le loup après.
Alors, je crois qu'il y a deux choses pour... Alors, si je réponds sur la théorie. Bon, j'ai cité cet article de Callicott qui donc intervient très tôt, hein, dans l'élaboration des éthiques environnementales et des éthiques animales, parce que si on les fait commencer dans les années 60, au milieu des années 70, c'est au début des années 80. Alors, j'ai pas eu le temps, mais Callicott a écrit un article, Back Together Again, hein, à nouveau ensemble, où il essaie de renouer les liens. Bon, je n'avais pas le temps de le présenter, d'autant plus qu'on a repris un certain nombre des idées que Callicott présente là. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que cet article sert encore de référence. Hein. Il sert encore de référence. Par exemple, bon, quelqu'un comme Dale Jamieson, bon, qui n'est pas beaucoup plus jeune que Callicott et Rolston, mais donc on peut dire qu'il est la deuxième génération des environnementalistes, a publié un article où il explique comment les éthiques animales, telles qu'il les défend, suffisent à faire des éthiques environnementales. Donc, d'une certaine façon, il propose une entente, mais à condition que les environnementalistes renoncent à ce qu'il est fait comme des environnementalistes. Donc, ce qui me frappe, c'est que... alors, vous avez fait allusion aux éthiques du care et à l'écoféminisme. Bon, je vais sortir un article là-dessus, bon, qui va sortir dans un livre qui est sous presse. Ce qui me frappe, c'est que la division, elle revient entre ce qui est présenté par Donovan, des gens comme ça, comme la tradition des éthiques du care animal et les éthiques du care côté écoféministe, et sur quoi elle ressurgit ? Sur le végétarisme. Donc, il me semble... Alors, on a essayé de présenter ce que Raphaël a fait. La partie de Raphaël était la partie de réconciliation, d'essayer d'expliquer qu'il y avait des possibilités de rendre compatibles des approches environnementales et des approches en éthique animale. Mais ce qui me frappe, c'est que quelque part, le conflit ressurgit. Et bon, en travaillant sur cet article que j'ai préparé sur les éthiques du care, l'écoféminisme côté animal et côté environnemental, ça ressurgit. Il y a, je ne sais plus laquelle c'est Karen Warren qui publie un article où elle explique ce que c'est de faire l'ascension d'une montagne de façon féministe et pas de façon masculine. Il ne s'agit pas de planter un drapeau, il s'agit d'avoir un rapport de care avec la montagne. Mais à la fin de son article, elle cite la leçon de sagesse d'un grand-père indien à son petit-fils qui lui apprend à tuer un daim. Et les échos, le féminisme animal dit, ben vous voyez, elle prétend avoir des rapports quasi amoureux avec la montagne, mais elle proteste pas pour raconter l'histoire du grand-père indien. Donc il y a quelque chose qui ressurgit. Alors on peut élaborer. Je disais, je suis pour la lutte des classes. Non, pas vraiment. Hein. On peut essayer d'élaborer des méthodes de compromis, mais moi, je suis frappé de... Il y a quelque chose là derrière. C'est pour ça que je me suis pas borné à l'article de Callicott. Ça renvoie à des choses et ça se partage en deux très facilement.
Enfin, je dirais, disons qu'on se déplaît pas dans la controverse.
On déteste
c'est bien
pas,
oui. La controverse. ça fait pas. C'est une des hein, comme disait Fourier, c'est une des passions cardinales de l'homme. Il y a l'unitéiste et il y a la kabbaliste aussi. Hein. Kabbale, c'est une très bonne chose. Donc, voilà. Sur la question des loups, mais, si vous voulez, je pense que d'une part, les sociétés hein, qui vivent avec les loups, est-ce que ça se passe nettement mieux que ça s'est passé en France ? D'abord, enfin, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est souvent des endroits où on faisait du fromage. C'est-à-dire qu'on a de petits troupeaux ils sont gardés et ils sont mis en bergerie la nuit, hein, pour qu'on puisse justement traire les brebis. Et donc le loup a beaucoup moins l'occasion d'attaquer, de faire des carnages. Alors ça, c'est important. Et d'autre part, c'est le on peut trouver, alors on a quelque chose où il y a un peu plus quand même de troupeaux à viande, qui est la cordillère cantabrique, où là, il y a quand même 2000 loups. Et ces loups sont, en dépit des accords européens, sont chassables. Et le fait de chasser le loup, ça on a prouvé, c'est au moins, là ça s'est prouvé localement, ben que le loup soit chassable, c'est plutôt favorable aux populations de loups, puisque c'est l'endroit où il y en a le plus en Europe, hein, dans toute la cordillère cantabrique. Il est chassable sous certaines conditions, hein, on n'a pas le droit de tirer sur un loup comme ça. Mais bon, donc... Alors effectivement, on peut penser que des gens qui n'en avaient plus vu depuis, qui n'en ont jamais vu, hein, les éleveurs actuels du Mercantour ou du sud des Alpes n'ont jamais vu de loup, ont perdu toute habitude de lutter contre le prédateur, de savoir quelles précautions il faut prendre, etc. Quand ils voient arriver le prédateur, ils sont un peu désarçonnés. Avec, effectivement, un petit brin de mauvaise foi en disant c'est le loup, il faut l'éradiquer, alors qu'ils n'avaient pas demandé l'éradication des chiens errants, tout simplement parce que les chiens errants, ça pouvait être les leurs aussi. Hein. D'ailleurs, quand il y a un trappeur qui est venu dans le Mercantour pour essayer de piéger un loup et de le mettre, de lui donner une balise, pour suivre à peu près, pour voir comment ils utilisent leur territoire. C'était un trappeur américain, il est resté 3 semaines. Le pauvre homme s'est ridiculisé, il n'a pas pris de loup, mais il a pris le chien du président de la société de chasse, qui n'avait strictement rien à faire dans le cœur du parc, qui est interdit à tout chien, sauf aux chiens bergers.
Je voudrais connaître votre avis à propos d'un, parce que vous parliez tout à l'heure d'un schisme éthique environnemental, éthique de l'animal. Oui. Dans le développement un peu de vos propos, on comprenait qu'il était plutôt facile de faire de l'éthique à la fois animale ou environnementale, mais à l'échelle de l'individu, à l'échelle micro, si je puis dire. Mais on n'a pas abordé la question de l'éthique de l'environnement, l'éthique de l'animal, en lien avec la philosophie politique, c'est-à-dire la nature des régimes, la question en fait de la démocratie. Parce que là vraiment, le problème se pose. Est-ce que la démocratie, elle dégage automatiquement, des choix qui vont dans le sens justement de l'éthique de l'environnement ou de l'éthique animale? Ça, c'est le premier problème. Ou à l'inverse, il faudra choisir la philosophie des communautariens que votre collègue a évoqué tout à l'heure. Votre mari, oui. Voilà. Donc là ça pose un autre problème sur la nature du régime. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'autoritarisme, de despotisme, que sais-je encore ? Ça, c'est une problématique. La deuxième problématique, c'est la question des systèmes politiques. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le macro, que ce soit dans le domaine de la haute finance, que ce soit de la grande industrie. Ce matin, la dame qui a fait une conférence à la question de l'élevage, elle parlait justement de l'industrialisation qui menaçait les petits éleveurs. Et bref, d'ailleurs, la preuve maintenant, elle n'est plus dans l'élevage, elle est prof à la fac. Donc on voit très très bien que, voilà, que l'histoire a évolué. Voilà, donc moi je pense que les grands schismes, ils doivent être plutôt pensés en relation et avec la philosophie politique et avec la philosophie économique. Voilà. Donc il y a un philosophe d'ailleurs, Arnars, là, qui a posé la question à la fois à l'échelle de l'individu et de la collectivité. Quoi.
Bon, alors, je ne peux pas répondre à tout. Je vais essayer de répondre rapidement. Hein. Je ne peux pas répondre à tout. Mais bon, je vais essayer de répondre sur un certain nombre de points. Bon, je dirais, moi, ça fait en gros une quinzaine d'années, hein, que je travaille sur ce genre de questions environnementales. Quand j'ai commencé à travailler, l'idée reçue était que les démocraties n'étaient pas capables de faire face aux problèmes environnementaux et que ça demandait quelque chose comme un autoritarisme. Hein. On a beaucoup accusé Jonas de ça, mais un critique de Jonas qui s'appelle Bernd Barrer, qui est, défend dans son livre quelque chose qu'il appelle comme la nécessaire hétéronomie des démocraties. Donc il y a eu pendant un certain temps une sorte d'accord sur le fait qu'on avait besoin de mesures autoritaires. Je pense que les choses ont changé, et je dirais qu'elles ont changé beaucoup grâce à la réflexion de gens comme Bruno Latour. L'idée, moi, à laquelle je me rallie personnellement, c'est que, bien sûr que non, les démocraties ne sont pas automatiquement environnementalistes, mais c'est pour ça que qu'on disait qu'on était pour la controverse, etc. C'est dans le débat démocratique qu'on fera avancer les questions environnementales. Et c'est pour ça, si vous voulez, que
les
je suis...
Aussi.
Et les questions animales aussi, d'ailleurs. Mais on est plus environnementaliste que... c'est pour ça que je ne suis ni naturaliste, et je ne pense pas qu'il y ait un schéma naturel qui puisse tout résoudre, hein, et je ne suis pas autoritariste non plus. Je pense... Alors, ça ne va pas de soi, comme ça ne va jamais de soi dans la démocratie, mais je pense qu'on ne peut avancer que démocratiquement. Alors... Bon, communautarisme, on l'a dit avec beaucoup de guillemets. On dirait multiculturaliste, hein, plutôt que communautarisme. Parce que, si vous voulez, il y a toute une réflexion, une élaboration politique sur la compatibilité du multiculturalisme et de la démocratie. Alors, pour le deuxième, là, c'est encore plus général. Je dirais simplement, sur quelque chose comme global-local, qu'à mon avis, les environnementalistes... je préfère dire environnementaliste et écologiste pour bien montrer le côté multidisciplinaire de la chose. Les environnementalistes, depuis le sommet de la Terre, depuis 1992, se sont précipités sur le côté global de la crise parce que c'est valorisant. C'est un problème global. Ils ont raison, sans doute. Oui, Copenhague, gna. Bon. Mais du coup, ils ont beaucoup oublié le côté local et ils ont oublié les leçons du local. Et ça, ce que vous a dit Raphaël, mais on aurait pu prendre d'autres cas où on montre que localement, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes qui sont supposés insolubles au niveau global. Et ça, ça pose question. Hein. Et c'est peut-être que les schémas qui permettent d'envisager le global, je dirais systémique pour aller très vite, hein, sont critiquables. Et qu'on est en train de mettre en place, bon, on a parlé d'Edgar Morin dans l'ouverture, on est en train de mettre en place au niveau local des modes de résolution des problèmes qui sont peut-être heuristiques à des niveaux plus larges. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que sinon ça serait une conférence.
Oui, pour avoir une pause très courte, on va prendre une question très courte et une réponse très courte.
Alors, je vais essayer de faire très court. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais j'ai cru comprendre dans la distinction que vous faites entre éthique environnementale et éthique animale que finalement, il s'agit toujours de poser l'homme en démiurge par rapport en démiurge avec des guillemets. Hein, il s'agit, ce que j'ai compris, de garder le contrôle sur l'homme activement ou passivement finalement. Parce que l'éthique environnementale, comme vous l'avez dit, laisse la logique libre de l'environnement à ses processus. Et l'éthique animale consiste à ne pas laisser l'animal souffrir. Bon, c'est grossièrement résumé. Mais finalement, est-ce qu'il y a un paradigme reconsidéré ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aujourd'hui un nouveau statut à la nature, à la phusis grecque et à nos congénères animaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas penser à ça plutôt que faire des fausses distinctions, finalement ? Si elles sont fausses, excusez-moi.
Vous savez, les distinctions, on en a bien besoin pour penser quand même de distinctions. Je dirais qu'il me semble qu'il y a quelque chose quand même qui se dégage des interventions depuis ce matin, c'est qu'il faut sortir d'un certain dualisme typique de l'Occident moderne. Alors, ce n'est pas facile, hein, parce qu'on ne peut pas dire non plus on va rendre tout compatible. Mais disons... c'est ce qu'on a essayé de montrer en disant qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans l'opposition entre domestique et sauvage. J'ai entendu ce matin, toutes les interventions ont été « il ne faut pas se laisser enfermer dans les dualismes, sujet-objet, homme-animal, etc. » Donc c'est plutôt vers ça qu'on va, simplement ce n'est pas simple. C'est pour ça que je parlais de complexe tout à l'heure. Et bon, je vais laisser les gens prendre leur pause.